Là, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je ne suis pas douché, je ne me suis pas coiffé, je me suis lavé les dents, mais j'ai des excuses. La préparation de la matinale a été perturbée par des problèmes techniques. Comment ça va? Vous allez bien? Alors, bonne année à ceux qui n'étaient pas avec nous hier soir pour le premier stream de l'année 2026. J'ai lancé un petit stream tout chill hier soir, 1er janvier 2026, en soirée. On était parti sur du Valo. Puis je me suis dit, allez, laissons le dernier mot à la communauté qui a toujours raison, comme tout le monde le sait. Est-ce qu'on n'essaierait pas un nouveau jeu? On a bien rigolé d'ailleurs, parce que c'était plutôt sympa. Vous avez fait feu de tout bois, vous m'avez proposé plein de jeux, on allait voir quelques trailers sur Steam. Et puis je suis tombé en arrêt, pour ne pas dire en amour, devant God of War 2018. Mais quel est ce jeu? Les graphismes! La musique, les combats, je suis tombé en amour. Voilà. Donc gros coup de cœur pour God of War hier soir, auquel on va rejouer bien sûr. Et un de ces jeux dont je me dis que je l'apprécie d'autant plus qu'il y a eu d'autres jeux avant qui m'ont appris certaines mécaniques et qui me permettent d'apprécier plus certains jeux. Il est évident que God of War, il y a 2 ans. Avant que je 2 ans et demi avant que je commence à explorer cette culture de jeux vidéo, plein de choses m'auraient freiné. Et là, c'est moins fastidieux que ça aurait pu être, quoi. Bon, plaisir, quoi. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Merci à ceux qui m'ont conseillé God of War. God pour Dieu, bien sûr. Merci ScreamKiller86 pour le 5e mois. Merci Diesel pour le 41e mois, c'est énorme. Merci. Neo Vinsmoke pour le 29e mois. Merci Choupinous Family pour le 17e mois. Merci Arizer Extreme. Merci et bonne année à tous. Ça va bien vous? Voilà. On fera ça. La prochaine fois on fera ça. La prochaine fois où je me dis tiens ce soir qu'est-ce qu'on lance? Hop, échange avec le chat, proposition, trailer, Steam, boum, achat, téléchargement et let's go quoi. Et en tout cas c'était une très bonne surprise. Quoi. Non c'est pas une question d'eau chaude, plop. Qui m'a fait rire avec ses messages du matin. Non, c'est tout simplement un problème technique lié au Parisien, à l'appli du Parisien. Merci Oderlin pour le 43e mois. Est-ce que je prononce bien? Je dis Oderlin, mais est-ce que ce serait Oderlin? Je dirais Oderlin, moi. Hier soir, en rentrant de God of War, je lis les journaux. Je lis le Parisien, je lis Libération, je lis le Figaro, je lis La Croix, je lis l'Opinion, je lis les Échos, je lis l'Équipe, Le Monde, etc. Tout va bien? Sur le coup d'une heure 45 du matin, j'ai ma petite sélection. En me disant, tiens, je vais prendre ça, ça, ça. Notamment parler du drame de Crans-Montana, affreux, là, ce qui s'est passé en Suisse. Grâce à l'article du Parisien qui était le plus complet, hier soir, très bien. Ce matin, je me remets dessus et le Parisien plus accessible. Monsieur, pour accéder au Parisien, il faut être abonné. Bah oui, mais mon abonnement, il court jusqu'en avril prochain, 2026, donc on est plutôt cool. Sugar me dit, j'ai eu le même souci il y a quelques jours avec le Parisien. C'est ça dont je parle. Et j'ai eu le même problème il y a quelques jours déjà. C'est-à-dire, l'appli te dit, t'es pas abonné, tu vas dans ton. Tu regardes, tu es connecté sous ton compte est abonné. Et voilà, et comme le dit Sugar, mon abonnement ne passait plus, il est revenu comme par magie. Voilà, donc je pense qu'ils ont un problème dans l'appli. Et le lendemain, je reviens, le Parisien disponible. Et là, c'est incroyable. Le journal, j'ai pu le lire hier soir, et ce matin, il était plus accessible. Or, moi, il y avait 2 articles dont je voulais vous parler dans le Parisien, donc ça m'a un peu ralenti. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le foufou. Comment j'ai résolu le problème? Parce que j'ai réussi à trouver l'article du Parisien. Sachant qu'on ne peut pas acheter ce journal à l'unité sur Internet. J'étais coincé. Voilà. Or, je me dois d'un service de qualité. Bon oui, MMG a deviné, espèce de goat. Je suis descendu au kiosque. Mais oui, Fabrica. Voilà. Voilà. Et j'ai photographié les articles qui m'intéressaient. Je les ai numérisés, ingénieur en informatique. Et voilà. Parce que j'aurais pu dire, allez, on parle pas du Parisien. Mais non. Donc je suis allé acheter un journal auquel je suis abonné, quoi. Je vais les appeler, je leur ai envoyé un petit mail ce matin, parce que c'est chiant. Mais je vais les appeler, parce que en plus, Sugar me dit que je suis pas tout seul, quoi. Donc, c'est quoi? C'est le bug de l'année 2026, les gars? C'est le passage à Windows qui s'est passé, c'est quoi? Qu'est-ce qui va pas aux Parisiens, là? À quel moment vous donnez pas votre journal aux gens qui sont abonnés, quoi? Enfin, enfin, les gars! Pas possible, ça. C'est-à-dire, je me suis pas douché. J'étais en retard, je me suis vite, vite fait coiffer. Pour me coiffer, c'est très simple, je mets une casquette. Puis après, je l'enlève et je suis coiffé. Je me suis lavé les dents quand même, pour que vous n'ayez pas à subir mon haleine pendant 3 heures. Mais je me doucherai tout à l'heure. Sinon, j'aurais été encore plus en retard. Sachant que les enfants passent à 11h30, Hélène me dépose les enfants parce qu'elle a un rendez-vous. Et donc, ils seront dans la petite pièce d'à côté, là. Exceptionnellement, sur tablette. J'aime pas trop qu'ils jouent aux jeux sur tablette. Il n'y a pas des jeux de foufou. Je préfère qu'ils jouent sur leur Switch à des jeux un peu sympas, comme Zelda, par exemple. Mais là, bon, exceptionnellement, je les ai en garderie à 11h30, le temps de finir la revue de presse, à côté. Est-ce que mon alerte est toujours... ouais. Tiens, je prépare l'alerte. Au cas où, si jamais il pop, mon ancien décor de stream, souvenir, nostalgie, quand je streamais depuis la maison. Tu pourrais les mettre à God of War. Non, ils ont 9 et 5 ans. Forcément, ouais. Le moment où t'as suffisamment affaibli un ennemi pour le prendre par la tête et le déchirer en deux, à grand renfort d'hémoglobine et d'organes qui coulent de partout, non. On va les protéger. Mais le jeu est magnifique. Mais God of War, quoi. Sur GTA. Bah. Con. Vous allez me faire m'étouffer. Ah. C'est le GOTY 2018, mais oui. Je pose la question, j'ouvre le débat. Hein. À quel moment aucun invité de Samplay, mon émission du dimanche soir d'exploration de la vidéo, de la culture vidéoludique, aucun invité de Samplay en 2 ans et demi ne m'a proposé God of War? Dans quel monde, hein? On a reçu, on a fait 70 émissions, je sais plus, je crois, hein, c'est ça, non? Combien on a fait? VOD Samuel Etienne, on va voir la chaîne YouTube, il y a tout en replay si vous voulez. Il y a tous les samplays, et tous les streams d'ailleurs, en replay. On est à combien de samplays là? Il faut en rajouter deux parce qu'il y a les deux premiers, ils n'ont pas été comptabilisés. C'était des tests concluants. Ah ben le samplay, il est assis là. 73. On est à 73 samplays, 71 plus 2. 73, aucun invité ne m'a proposé God of War. Et encore, tu n'as pas découvert la saga récente, les trois précédents sont pour moi encore meilleurs. Les trois après, alors. Ce précédent, c'est avant, non? Ouais. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va y rejouer. Peut-être pas ce soir, parce que les enfants sont en vacances. Le deal avec la famille, c'est que je fais des revues de presse tous les matins. Et donc, je fais pas trop de stream de gaming en ce moment, normalement, le soir, quoi. Hier, c'était exceptionnel, puisque hier, il n'y avait pas de journaux, donc j'ai pas pu faire de revue de presse. Donc, histoire de vous proposer quand même un stream, il y a eu le gaming, il y a eu God of War hier soir. Mais il n'est pas sûr qu'il y ait un stream gaming ce soir, quoi. Il y a eu 3 God of War dans la mythologie grecque avant, et toi, tu commences le 1 dans la mythologie nordique. Ah, donc c'est pour ça que les gens me disaient que c'était pas vraiment le 1 hier. Ah. Toi, tu as découvert le début de la saga récente, il y en a eu 3 avant. Ah ouais. Il y a Ragnarok qui arrive après, là. Oui, il paraît qu'on me voit apparaître dans la vidéo du Parisien qui parle de Game One, ouais. Quand je parle de la sortie de la PS2. Eh ouais, les gars. Les anciens sont là. Ok, d'accord. Et, pardon, je reste un instant sur God of War, ce jeu m'a marqué. Merci Torino pour le Prime. Merci Babadit pour le 50e mois, nom de Dieu. 50 mois. Dans les God of War précédents sur la mythologie grecque, est-ce que vous m'en conseillez un? God of War était une exclue. Sony, pendant des années, me dit MEF. Donc, pour les joueurs PC, la série est très récente. Okay. Dans les précédents, le 3, me dit Adelda. Le 3, ok. Avant Ragnarok, du coup. Avant de faire Ragnarok, peut-être revenir en arrière sur le 3. Mais en termes de graphisme et de gameplay par rapport à celui que je suis en train de découvrir, là, est-ce que ça va pas prendre un coup de vieux? Ça va pas prendre un coup de vieux? C'est... Si, Kiwi tout mou me dit oui. Ok. Ah, j'aurais peut-être dû commencer par celui-là alors. Mais c'est une histoire qui dure sur les 3 épisodes. Ah, Noctali me dit je crois que c'est un mal vieilli. Si t'as aimé Skyrim, ce sera pas un souci, je pense. Un peu, mais c'est tellement bien foutu quand même. Ok. Il y a un monde où on fait peut-être Ragnarok ensuite et peut-être le 3 après. Ok. Hazard me dit le 2 aussi, il est ok. En tout cas, je suis content parce que c'était. J'en ai même parlé à ma femme ce matin. Je lui ai dit, j'en ai même parlé à Hélène ce matin. Je lui parle pas trop de mes streams de gaming. Mais ce matin, je lui ai dit, putain, hier soir, la commu m'a fait découvrir vraiment un jeu de fou, quoi. Donc, il m'a vraiment marqué, quoi. Et vraiment, c'est un super cadeau que vous m'avez fait parce que le conseil du chat, là, sur ce jeu, là, vraiment, je. En plus, il était en promo sur Steam. Je l'ai payé que dalle. Hein, disons que God of War a grandi avec son public. Les anciens étaient violents et enragés. Adolescence, me dit Dead Lou Live. Les récents sont plus le fait de prendre ses responsabilités, notamment en tant que père, c'est ça, non? Et le public de l'époque a maintenant l'âge de devenir parent. J'en ai parlé à ma femme ce matin en mode Colombo. God of War 2018, framboise. Merci Despotic, merci de ton soutien. Ouais, vraiment, ça m'a vraiment, j'étais très très agréablement surpris par le jeu, quoi. Du lore, un peu pas trop, des combats bien foutus, un peu pas trop, graphisme. Une fois qu'on les a réglés d'ailleurs, parce qu'au début c'était pas trop bien réglé. Là aussi, la commu m'a aidé dans le chat hier. On est allé chercher les meilleurs réglages. Les graphismes, tu prends une grosse claque dans le visage quand même. Ouais, c'était un vrai plaisir, quoi. Un vrai plaisir. Là, je suis content, là. Et je suis content parce que c'est les jeux que je découvre bon, après une centaine d'autres. On en a calculé qu'en 2 ans et demi, là, c'est deux... Ouais, en 2 ans et demi, j'ai découvert après une centaine de jeux. Entre ceux que j'ai lancés tout seul, ceux que j'ai découverts à la Zilan, ceux de Samplay, bien sûr. Et je suis content parce que c'est... Bah, mine de rien, même si le niveau du gamer est pas fou... toutes ces expériences font que à chaque fois que je découvre un nouveau jeu maintenant, je pense que je les découvre mieux. Tu vois, il y a moins de galères, il y a moins d'interrogations. Et parce qu'évidemment, chaque jeu t'amène une petite expérience. Ah, Sugar me dit j'ai plus de 125 jeux streamés maintenant. Et après, c'est beaucoup et c'est rien en même temps, c'est une goutte d'eau dans l'histoire du jeu vidéo, mais c'est passionnant. C'est passionnant à explorer, quel plaisir, quoi. Est-ce que t'es arrivé sur Twitch avec le gaming en tête, me dit Wispy, ou est-ce que tu cherchais un nouveau média sur lequel bosser à la base? En fait, ni l'un ni l'autre, pour répondre à ta question. Alors, déjà, effectivement, je suis pas arrivé sur Twitch avec le gaming en tête. J'étais totalement éloigné du jeu vidéo à mon arrivée. Le jeu vidéo, moi, ça remontait à la fin des années 80. C'est-à-dire que la dernière fois que j'avais joué au jeu vidéo, c'était en 1988, je pense. 87, 88, seconde, première, les premières consoles, tu vois, on est sur un peu la préhistoire du jeu vidéo. Et après, je passe à autre chose, le bac arrive, les études supérieures, ça me prend un peu, le boulot, et un peu la fête aussi. Et puis, je passe à autre chose, et je ne joue plus, sans me rendre compte que cet univers est en train de connaître une expansion incroyable, quoi. D'autant que les médias traditionnels que je consomme, télé, radio, presse écrite, n'en parlent pas beaucoup de cette révolution des jeux vidéo qui va se poursuivre, en fait. Et donc, je me rends pas compte à quel point le jeu vidéo est devenu un univers d'une richesse infinie. Donc, il y a 5 ans, j'arrive sur Twitch. Alors, ni pour jouer aux jeux vidéo, ni pour chercher un nouveau relais pour travailler... en ayant pris conscience que les médias traditionnels que je viens d'évoquer, notamment la télévision que j'ai beaucoup pratiquée, étaient en train de s'affaiblir, pour pas dire plus. Non, je crois que j'en avais même pas tellement conscience à l'époque. C'était mon horizon indépassable, c'était la radio, la télé. Et puis je découvre Twitch par curiosité grâce à Étoile. Je trouve que l'outil est incroyable, de liberté, d'indépendance, de créativité, d'interactivité. Et puis je me dis, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, quoi ? Aussi bêtement que ça, quoi. La poule qui découvre un œuf, quoi. Je dis, what ? Qu'est-ce que c'est ? Et donc, et de fil en aiguille, bah, je propose une revue de presse, puisque c'est ce que je savais faire. On parle d'actualité, et puis on crée des émissions, de débats, on se promène dans les musées. Et un jour, je dis, tiens, merci Wispy, c'est très intéressant. Le cœur du réacteur, manifestement, sur Twitch, c'est quand même le jeu vidéo. Je voyais bien que tous mes petits amis streamers streamaient énormément de jeux vidéo. Je me dis, mais si tous ces gens, si tous ces streamers et ces streameuses de qualité passent autant de temps mettent autant de passion sur ces jeux, c'est qu'il doit y avoir une raison. Et voilà. Et je crée Ça me plaît, mon émission du dimanche soir, pour explorer ça, pour rattraper mon retard. Et là, grosse claque. Je fais, ok, d'accord. C'est ça le jeu vidéo. Voilà. Et ça a commencé comme ça. Ça a commencé avec Ça me plaît, il y a 2 ans et demi. À l'époque, on m'avait dit, mais qu'est-ce que tu... Mais non, ça met aucun intérêt. Lis tes journaux, ça ira bien. Qu'est-ce que tu vas proposer de plus? Hein, tout le monde stream déjà du jeu vidéo, quoi. Mais comme je suis têtu, j'en fais qu'à ma tête. Voilà, puis, et ce que j'ai proposé de plus, c'est que eh ben, je suis un vieux qui joue aux jeux vidéo, j'adore ça. Et ça finit par 24 heures de Valo, exactement. Voilà. Bon, moi je vous propose d'enchaîner sur la revue de presse parce que les enfants débarquent à 11h30 et je voudrais pas qu'ils jouent trop longtemps aux jeux vidéo à cause de moi sur la tablette ce matin en m'attendant. Et je vous propose de partir sur le sommaire. Ça vous va? À quand le subathon? Je fais pas trop de subathon, moi, Jib. Enfin, streamer très longtemps pour vous faire marrer, ça m'amuse. J'ai fait un stream 24h Valo au fait, là. Mais faire appel à vos générosités de façon un tout petit peu appuyée. En vrai, je vous l'ai déjà dit, je préfère aller chercher l'argent des sponsors et des marques pour vous proposer un contenu sympa et en vivre plutôt que vous dire, ah les gars, j'ai... Voilà. Vous voyez, si vous voulez soutenir la chaîne en vous abonnant, let's go, c'est hyper, c'est vraiment, ça me touche beaucoup. Mais idéalement, si je peux éviter de vous prendre vos sous et aller les chercher dans la poche d'entreprises qui en ont pour faire leur com, je trouve ça, c'est ok, quoi. Voilà. Après, moi, j'ai rien contre le subathon parce que le subathon pour un streamer ou une streameuse qui dont c'est la passion, qui veut vivre de son streaming, mais qui n'a pas accès aux marques, aux sponsors que je viens d'évoquer ici, pour X raisons, qui lui permettent d'aller choper ces budgets-là, eh ben, il n'a pas le choix, quoi. Tu vois ? Donc, j'ai aucun mérite là-dessus. Moi, j'ai la chance de pouvoir accéder à ces budgets-là, je touche du bois, j'espère que ça va continuer. Mais c'est une chance, quoi. Et tout le monde n'a pas cette chance, quoi. Donc, je profite de cette chance. Voilà. Merci, les Mérien Obès, pour le soutien. Et bonne année à toi. Ok, on passe sur un sommaire. Ça va être compliqué parce que les articles sont un peu dans le désordre à cause de mes problèmes techniques de ce matin. Mais je vais essayer de me concentrer pour vous faire le truc le plus carré possible. J'ai votre go pour le début de la revue de presse. On commence par le sommaire. C'est-à-dire que je vous résume l'actu en quelques minutes avant de développer tout ça, quoi. Comme ça, si vous pouvez pas rester 2-3 heures avec nous, vous avez l'essentiel de là-dessus. Ok. Alors, est-ce que la tablette est bien connectée? Oui, le sommaire, vous l'avez. Donc, vous voyez ici dans le sommaire de quoi on va parler. Je lance le sommaire. C'est parti. Voilà. Donc, évidemment... Comment ne pas commencer par ça, ce drame horrible, atroce, enfin, je pense que les mots seront trop faibles ce matin. Comment ne pas commencer par le drame de Cran Montana en Suisse? Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent ce matin dans la revue de presse, dans la matinée Étienne. C'est la première de 2026 et c'est un peu triste de commencer par ça. On va commencer par ça. Le nouvel an de l'horreur, titre Le Parisien. Le feu qui a ravagé au cours du réveillon de la Saint-Sylvestre un bar de la station suisse a fait une quarantaine de morts et environ 115 blessés. Selon le bilan dressé par les autorités locales jeudi soir, il n'est pas impossible que... Pardon. Que le bilan s'alourdisse. Le Parisien, j'ai pas pu le télécharger ce matin, donc je l'ai acheté en version papier, vous le voyez. Et pourquoi j'ai tenu à voir Le Parisien ce matin? Parce que hier soir, tard, j'ai lu tous les journaux là-dessus, parce que tous les journaux en parlent de ce matin, c'est aussi la une de Libération. Mais j'ai trouvé que c'était dans Le Parisien qu'il y avait le plus d'informations, quoi. Voilà. Nuit d'effroi à Crans, Montana. En Suisse, la Saint-Sylvestre a tourné au carnage quand le Constellation, un bar de la station de ski, s'est transformé en brasier. Alors évidemment, il y a énormément de questions sur les raisons de ce drame. Comment est-ce possible? C'est la question que tout le monde se pose. Le bilan provisoire, dit bien Le Parisien, fait état d'une quarantaine de morts. Bon, il y a des images qui sont très très dures, que vous avez déjà vu passer sans doute sur les réseaux sociaux. Il y a des témoignages de gens qui y étaient. On est passé du paradis à l'enfer. Voilà. Et on prendra le temps d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, sachant qu'on n'a pas toutes les informations. Et on y reviendra peut-être dans les prochains jours. Il y a une enquête qui a été ouverte. Voilà. Hier, dans le chat, hier soir, il y avait quelqu'un qui manifestement connaissait très très bien l'endroit et qui a peut-être perdu des gens de sa connaissance dans ce drame. Merci, nom de Zeus. Donc, ce drame en Suisse, à Crans, Montana, ce sera notre premier sujet. Le deuxième, ce sera. J'ai hésité à vous en parler, mais ce sera les vœux du président Macron. Voilà. J'ai hésité parce que c'était au 31 décembre au soir, à 20h. On avait tous peut-être mieux à faire à 20h le 31 au soir que d'écouter les vœux du président. Donc moi je les ai pas vus en direct, j'étais avec la famille, vous aussi peut-être. Mais je me suis dit, bon, c'est quand même le premier personnage de l'État, même si on s'attend pas à des folies d'annonces, peut-être qu'il faut y jeter un œil, quoi. Donc j'ai trouvé un article dans Les Échos qui est plutôt bien fait sur le contenu ou le non-contenu de ces vœux. J'y suis allé un petit peu à reculons, hein, mais je suis quand même allé voir. Voilà. MMG me dit, je les ai vus en famille, ces vœux, j'étais plutôt agréablement surpris. Il y a peut-être des choses à retenir de tout ça. Que disent pardon, Les Échos ce matin? Pour ses vœux, Macron assure qu'il présidera jusqu'à la dernière seconde. Donc ça, c'est une info. Hein. A priori, il n'y aura pas de démission. Dans une sobre adresse aux Français pour ses vœux, le chef de l'État, pourtant très empêché depuis la dissolution, oui, le roi est nu, comme on dit, hein, c'est-à-dire que un président qui n'a pas de majorité sous la cinquième à l'Assemblée, ses pouvoirs sont considérablement affaiblis, voilà. Surtout sur un deuxième mandat, dont on sait qui du coup, il ne peut pas être élu à nouveau, dans la foulée. Pourtant très empêché depuis la dissolution, a tenté de contrer l'idée d'un pays à l'arrêt. Ensuite, on parlera. Alors, pas de ça. Parce qu'en fait, mes articles sont en désordre parce que j'ai eu des petits problèmes techniques ce matin. On parlera de ça. Je ne sais pas comment intituler cet article. J'ai appelé ça Député LFI, la polémique. J'aurais pu aussi titrer ça là. Gros guillemets, hein, énorme guillemets, la pauvreté intellectuelle des gens du Nord. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, j'ai trouvé ça dans Le Parisien, un peu surréaliste. Donc c'est un député LFI qui s'appelle Carlos Martins Bilongo, qui a tenu des propos à propos des habitants du Nord pour expliquer leur vote RN par leur pauvreté intellectuelle. Comment dire? Je vous avoue, je ne sais même pas quoi dire de ça. C'est-à-dire que, à un moment, il faut un peu de hauteur dans le débat politique. Et ça, c'est pas fou, quoi. Enfin, c'est pas fou, c'est même. Enfin, je sais pas quoi vous dire. Vous savez, d'ailleurs, ça m'est reproché beaucoup par certains que je n'ai aucune sympathie pour les idées du Rassemblement national. En revanche, je suis pas sûr que c'est comme ça qu'on doit lutter contre ce parti, quoi. Voilà, pour le dire de façon la plus apaisée possible. Donc on se penchera là-dessus. Et encore là, c'est quand on rentre dans le détail de ses propos, c'est pour le coup, je trouve ça choquant, quoi. Mais en tout cas, quel que soit le camp politique auquel on appartient, dire, réduire le débat politique, de dire les gens du camp d'en face, ils ne pensent pas comme moi, s'ils ne votent pas comme moi, c'est parce qu'ils sont débiles ou culturellement je ne sais pas quoi. Ce n'est pas le degré zéro du débat politique, c'est le degré moins l'infini du débat politique. Quel enfer, hein. C'est du niveau discussion de comptoir bourré, quoi. Donc voilà. Voilà. Et là, c'est un peu le quotidien de ce qu'on peut dire sur les réseaux sociaux, mais quand on est élu. Oui, il y a aussi ces propos sur Rachida Dati qui sont extrêmement problématiques. Il n'y a pas que ça, vous verrez dans l'article. Oui, c'est la même personne qui dit que Dati a couché pour réussir. Oui, c'est ce que je découvre ce matin dans la presse. Donc voilà. Bon, on lira ça ce matin, je trouve ça assez choquant. Troisième sujet, puisqu'on parle du RN, Trump au secours du RN. Donc ça, c'est dans l'Humanité. Voilà. Plusieurs jours que je vois passer des articles là-dessus, comme quoi, c'est une info qui vient d'un média américain, comme quoi les États-Unis voudraient, on va laisser ça conditionnel pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de déclaration vraiment officielle, mais voudraient multiplier les sanctions contre des personnalités européennes, par exemple en les interdisant de séjour sur le territoire américain, les interdisant de venir sur le sol américain. Alors Thierry Breton, c'est pas une rumeur, c'est une info. Thierry Breton, l'ancien commissaire européen, est interdit de séjourner sur le territoire américain puisqu'il est à l'origine des règlements, des directives européennes pour encadrer les excès des réseaux sociaux et notamment américains. Hein. Donc ça c'est pas une rumeur, c'est une info, on en a déjà parlé. Mais là l'interrogation c'est est-ce que les magistrats qui ont condamné Marine Le Pen en mars dernier, hein, les juges, dans l'affaire de l'utilisation des fonds européens, du détournement des fonds européens, l'histoire des emplois fictifs là au Parlement européen, ces magistrats français seraient également éventuellement visés par les mêmes sanctions. Voilà. Bon, après, c'est du Trump, rien de très très surprenant, mais... Donc on lira cet article dans l'Humanité. Et en gros, Washington attendrait le résultat du procès en appel pour éventuellement prendre cette décision. Trump qui ne se cache pas, de toute façon qui n'a pas caché ces derniers mois, sa sympathie pour tous les mouvements d'extrême droite européens. Bon ça, c'est, pour le coup, c'est pas une rumeur, c'est une info. Il suffit d'aller voir les déclarations de Trump sur le sujet. Oui, on peut appeler ça de l'ingérence, oui, tout à fait. Alors, il y a des choses plus positives dans l'actualité. En tout cas, pour ceux qui s'intéressent, par exemple, je sais que certains d'entre vous en sont à la conquête de l'exploration spatiale. Je ne sais pas comment il faut appeler le sujet. Moi, je ne suis pas spécialiste de la question. Mais le Figaro nous dit en sa une ce matin, c'est son principal dossier, que l'année 2026 sera une année importante, cruciale pour la conquête spatiale. La Lune, Mars, Mercure, les prochains mois s'annoncent riches en exploration du système solaire. Voilà, MMG, je pensais à toi. Je sais que ça t'intéresse. Voilà. Le Figaro dit. Alors, le Figaro, avec une forme de prudence, c'est assez, y a de la rigueur dans tout ça. Est-ce que l'année 2026 peut marquer une forme de renouveau pour l'exploration spatiale? Parce que il y a eu des réductions de budget, il y a eu plein de choses. Il est délicat d'apporter une réponse définitive étant donné les grandes incertitudes qui pèsent sur ces activités. Les missions se développent sur des années, les voyages sont parfois très longs, mais à la faveur des hasards programmatiques. Cette année 2026 s'annonce effectivement riche en exploration, qu'elle soit humaine ou robotique, de l'espace. Donc je trouvais intéressant d'en parler. Là, c'est une Française, je crois, Sophie Adeno, qui va bientôt devenir la deuxième Française dans l'histoire de notre pays à aller dans l'espace. Je pense que la première, c'est Claudie Aigneret, hein, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et donc une deuxième arrive. On parlera notamment de ça. Voilà, Sophie Adeno. Adeno ou Adeno? Sophie Adeno. Non, c'est pas Claudie Aigneret, Sugar? Ah, si, femme. Je parlais des femmes. Après, je vérifie que c'est le bon ordre. Oui, tout dans le... mes journaux sont un peu dans le désordre ce matin. Je m'en excuse. On ira voir La Croix. La Croix qui nous fait un dossier assez intéressant. Sur 12 événements à venir en 2026, 12 événements annoncés et importants. Voilà, alors on se penchera pas sur tous. Voilà, mais il y a 12 événements attendus en 2026. Exercice forcément subjectif, hein. La croix n'a pas de boule de cristal, mais voilà, ça parle de l'espoir de paix en Ukraine, ça parle des élections en Israël, en Hongrie, ça parle des municipales en France. Ça parle de la Coupe du Monde? Non. Je crois parle qui. Non, je crois que non. Voilà. Moi non plus, ça me, je suis, pour l'instant, je suis pas trop hypé. Je vois plutôt les articles critiques passer sur cette Coupe du Monde, notamment sur le prix des places, notamment sur le fait que il y a de nombreux supporters de certains pays qui seront tout simplement interdits de venir soutenir leur équipe parce que Trump a décidé que les ressortissants de ces pays étaient desira non grata. Parfois, il le dit en des termes beaucoup moins sympathiques d'ailleurs. Donc, c'est plutôt ça qui m'intéresse sur la Coupe du Monde. Voilà, peut-être qu'au moment où elle débutera, on s'intéressera aussi à l'enjeu sportif, mais pour l'instant, c'est pas foufou, hein. Non, 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 la Croix ne parle pas de la Coupe du Monde. Les municipales, qu'est-ce qu'on a? On a aussi. Bah tiens, un truc dont j'avais pas entendu parler, mais l'artiste JR, qui en juin prochain va faire un truc autour du Pont Neuf, transformation du Pont Neuf à Paris, j'ai trouvé ça assez intéressant. Elle sera où la Coupe du Monde? Elle sera aux États-Unis, au Mexique et au Canada, si je dis pas de bêtises. Nibi. Donc ça pose des questions, les stades sont très éloignés. Beaucoup de déplacements en avion, mais enfin bon, c'est les États-Unis. Il y a le prix des places. Jamais une Coupe du Monde n'avait été aussi peu accessible financièrement. Les prix sont fous. Et puis, il y a le fait que Trump bah, ferme les frontières, notamment à certains pays dont il dit, moi, je veux pas que des gens de tel pays viennent, mondial ou pas mondial, quoi. C'est-à-dire que, il y a des équipes qui peuvent être privées de supporters, quoi. Ah, ils en parlent dans l'article de la Coupe du Monde? Ah, peut-être, excuse-moi, j'ai raté. Où ça? Où ça? Ah, là! Ah, t'as raison, excuse-moi. T'as raison, t'as raison. Attends, pour moi, ils en parlent. Ils disent qu'il y a une Coupe du Monde aux États-Unis. Voilà, effectivement. Exutoire écrit, en plus la France est nulle, donc on n'ira pas loin. Ok. 2 janvier 2026, pronostic de notre ami Exutoire, la France est nulle, elle n'ira pas loin. Si la France est championne du monde en 2026, ou si elle rentre même dans le dernier carré, on ira chercher ton message. Le chat, vous mettrez ça de côté. Hein, pas loin, on peut dire c'est avant le dernier carré, avant les demi, quoi. Salut Bruno. Est-ce qu'il me reste un article? Oui. Oui. Ah oui. Je vous en ai parlé. Ça va peut-être se passer. Les réseaux sociaux interdits aux ados en France. Article dans Les Échos. Dès la rentrée 2026, les ados pourrait ne plus avoir accès aux réseaux sociaux. Je vous en ai parlé de ça. Bah, a priori, ça va peut-être se faire. Ouais. Alors, c'est un souhait du président, il y a beaucoup de débats. L'Australie l'a fait, on en a parlé. Voilà. A priori, ça peut arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a un projet de loi, donc un texte de loi préparé par le gouvernement. Le projet de loi devrait être discuté au Parlement en début d'année, mais les questions d'ordre juridique demeurent. Le début de l'article est assez drôle. Ado, scrollez tant que vous le pouvez, partagez des vidéos de chats avant qu'il ne soit trop tard, téléphonez dans la cour du lycée. On sait que les ados sont sur les réseaux sociaux essentiellement pour partager des vidéos de chats, voilà. Comme nous tous. D'ici à quelques mois, les moins de 15 ans ne pourront théoriquement, bien sûr, hein, ce sera toujours contournable pour ceux qui souhaitent le contourner, théoriquement plus accéder aux réseaux sociaux. C'est la volonté du gouvernement qui va déposer un projet de loi sur l'interdiction de TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, etc. Le etc. Il touchera peut-être Twitch. Hein. Il touchera peut-être Twitch. Hein. Voilà. Donc on se penchera là-dessus. Bon, en même temps, empêcher les ados accéder à X en ce moment et se pencher sur ce spectacle navrant de personnes. Donc beaucoup de garçons, je suppose, qui demandent à la moindre photo, image d'une représentante de la gente féminine demandons à Grok, l'IA de Monsieur Musk, si Grok n'a pas autre chose à foutre que de déshabiller la dite personne et de la mettre en bikini. Effectivement, si on empêche les ados d'accéder à cette merde, je ne m'en plaindrai pas. Hein, c'est fou, ça. Où sont les articles ? Où sont les articles dans la presse ? Hein, où sont les... J'attends l'article, un peu un article de fond qui nous clamera son indignation et puis analysera un petit peu le cadre juridique de ça. À quel moment il est normal, il est légal, sans parler du moral, de se servir d'un réseau social et de son IA pour demander à déshabiller des gens qui n'ont pas demandé à l'être, quoi. C'est fou, quand même. Non, mais c'est honteux. C'est le réseau du chétan. Hein. C'est le réseau du chétan. Simple, les images postées sont publiques. Bien sûr, Cotan. Argument de fou. Hein. Les images postées sont des images de gens habillés. Hein. Ce ne sont pas des images de gens en bikini ou plus déshabillés encore. Fin de l'histoire. Ton argument, il vient de se cracher en vol, quoi. Donc les gens ont donné leur consentement pour poster une image publique de habillés. Voilà. À quel moment le fait de déshabiller contre leur gré ces gens, tu trouves ça pertinent par rapport à cet argument, quoi. Moi aussi, j'ai des photos de moi sur les réseaux habillés. Il n'est pas dans mes projets qu'on me mette en bikini, quoi. D'autant que je ne suis pas à mon prime en ce moment, j'ai un petit peu de bedou, quoi. Donc non. Si vous voulez voir ça, si vous voulez abîmer vos rétines avec ce genre de spectacle, moi en bikini, vous allez sur mon OnlyFans, comme tout le monde, vous prenez votre abonnement, prenez l'exclamation OF dans le chat, et vous prenez un petit abonnement, et les petites photos, mais là on est sur une démarche artistique, on est sur quelque chose, on est sur un érotisme soft, on est sur du nu, c'est un grand mot, mais il y a un flou romantique, et voilà ça c'est de l'art, on est sur de l'art. Mais pourquoi ils ne désactivent pas simplement leur compte à ces mecs ? C'est faisable, non ? Et ils blacklistent leurs IP. Mais parce que le patron de ce réseau social s'appelle Elon Musk, mon ami. Et qu'il a une conception de la liberté d'expression qui est particulière. Voilà. Et j'espère qu'on aura un article pour en parler dans les prochains jours. Qu'est-ce que vous pensez de ce sommaire ? N'est-il pas riche ? Tu imagines si Elon Musk achète Twitch ? Waouh ! Quel enfer ! Quel enfer ! Faut arrêter de vouloir contrôler les gens, je suis désolé. Oui, Dollar Belzy, t'as raison. T'as raison, on va laisser les gens rouler à 200 km en ville au nom de la liberté individuelle. Mais pourquoi limiter la liberté des gens qui veulent rouler à 200 km/h en ville, après tout, hein? Pourquoi limiter la liberté des gens en France qui voudraient se promener dans la rue avec un fusil d'assaut, après tout? C'est leur liberté, hein, hein. À un moment, il faut arrêter de limiter la liberté des gens, hein. Si les gens veulent déshabiller tout le monde sur Internet, laissons-les, en vrai. Ouais, c'est un argument qui est assez pertinent, effectivement. Merci, Seiyaruki. Merci, Juju. Merci, nom de Zeus. Bon, on a fait le sommaire. Est-ce qu'on partira pas sur la revue de presse ? Est-ce que j'ai votre go ? Oui. Allez, c'est parti. Bienvenue les amis dans la revue de presse. Merci d'être avec moi. C'est la première matinée Étienne de l'année 2026. Bienvenue à ceux qui sont en direct avec moi sur Twitch comme tous les matins depuis 5 ans. Et merci à ceux qui nous écoutent en podcast, en podcast audio sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast. Vous êtes très nombreux et ça me fait très plaisir. Je vous le disais dans le sommaire à l'instant, on va notamment prendre le temps de se pencher sur ce drame qui vient de se dérouler en Suisse. C'est la une du Parisien ce matin qui nous propose le dossier le plus complet sur le sujet. le nouvel an de l'horreur, le feu qui a ravagé au cours du réveillon de la Saint-Sylvestre, donc c'est le réveillon du nouvel an, un bar de la station suisse, donc c'est une station de ski, hein, a fait une quarantaine de morts. Le bilan va peut-être s'alourdir. C'est monstrueux ce qui s'est passé. Hein. Tu vas dans un endroit pour faire la fête. La fête, c'est une célébration de la vie quelque part. La fête, c'est ça qui est intéressant dans l'idée de fête. C'est célébrer d'être là plutôt que d'être pas là, en fait. Tu vas dans un endroit pour célébrer la vie et tu n'en ressors pas, quoi. Avec beaucoup de jeunes. Quarantaine de morts, environ 115 blessés. Certains sont grièvement brûlés, si j'ai bien compris. Selon le bilan dressé par les autorités locales jeudi soir, et c'est un bilan qui va peut-être s'alourdir. Pour ceux qui n'ont pas les infos, lisons le dossier du Parisien. Nuit d'effroi à Crans-Montana. En Suisse, la Saint-Sylvestre a tourné au carnage quand le Constellation, un bar de la station de ski, s'est transformé en brasier. Le bilan provisoire fait état d'une quarantaine de morts. Il y a Twitch Brian59 qui écrit « J'habite à Crans-Montana, le contraste entre les familles endeuillées et les touristes qui s'amusent. Wow. » Je me souviens de ça, Rhodes nous parle de ce drame similaire à Rouen, il y a quelques années, effectivement dans un sous-sol de bar transformé en discothèque, je me rappelle de ça, où les conditions de sécurité n'étaient absolument pas les respectées, voilà, et ça avait été une catastrophe aussi. Ouais, je crois que tu as raison, c'était effectivement, je crois que c'était dans la ville de Rouen. Le bilan provisoire fait état d'une quarantaine de morts. Un lieu dédié à la fête. Rempli de rire, de musique, de lumière, devait accueillir toute l'insouciance d'une jeunesse chanceuse réunie pour célébrer le passage en 2026. Oui, bah oui, chanceuse, parce que bon, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir prendre des vacances, de prendre des vacances au ski. Crans-Montana, c'est une station un petit peu chic, d'où ce mot chanceuse. Le Constellation s'est donc changé en torche monstrueuse, puis en quelques secondes en tombeau. Environ 40 personnes ont été tuées, 115 autres blessées, dont 9 Français, une majorité dans un état critique, dans l'effroyable incendie qui a ravagé en quelques minutes vers 1h30 ce jeudi, donc au milieu de la nuit, ce bar à cocktail, au centre de la station de sport d'hiver, le Crans-Montana, en Suisse. Le Quai d'Orsay a aussi précisé dans la soirée que 8 Français n'étaient pas localisés. Donc il y a peut-être, effectivement, parmi les morts, il y a peut-être des Français et des Françaises. Cette destination huppée, un peu chic, hein, du canton de Valais, une commune vouée à l'accueil et à la détente selon le président de la Confédération helvétique, s'est découverte en décor de l'enfer ce jeudi matin, sans précédent, a souligné le commandant de la police cantonale du Valais. Des scènes de panique, de chaos, décrites par les secouristes, les premiers sur place, alors que les fêtards pris au piège des flammes tentaient de sauver leur vie. Les témoins ont parlé de choses apocalyptiques, quoi. On a vu des témoignages, notamment à la télévision, sur un, je ne sais pas si vous avez vu ce jeune qui dit « C'est le seul bar de la station qui acceptait les moins de 18 ans ». À partir de 16 ans, voilà. Et moi, mon constat, c'est que dans ce bar, il y avait souvent des plus jeunes, hein, des 14, 15 ans, se faisant passer pour des 16 ans, quoi. Que s'est-il passé ? Il est environ 1h30 du matin quand les premières fumées montent dans la nuit, depuis le bar situé en rez-de-chaussée, en haut d'une volée de marche. Depuis le début de la soirée, la célèbre station vibre au son des DJ sets et du concert qui se tient en plein air à l'autre bout de la station, côté Montana. Voilà. C'est le pic de la saison touristique. Habitants et touristes se croisent dans ces rues où le luxe a pignon sur rue, à côté du fromager, du magasin de ski, les jeunes échappés des chalets familiaux se baladent en grappes joyeuses. Crans-Montana, c'est le genre d'endroit où on laisse les enfants sortir seuls sans crainte, en sachant qu'ils feront au pire de gentilles bêtises et rentreront à 2h. Il y a des navettes pour amener les gens dans les quartiers, il n'y a jamais de problème, c'est un cadre tranquillisant pour les parents, raconte quelqu'un qui habite la station. Le Constellation, donc le bar, qui, si je dis pas de bêtises, était géré par des Français. Situé dans la rue centrale, accueille depuis des années, je pense qu'il manque un mot, une clientèle variée, et ce soir-là, plutôt jeune. L'établissement, géré par un hôtelier français, compte 300 places à l'intérieur, une quarantaine en terrasse. Selon une vidéo prise par un convive, une photo et le témoignage d'une jeune femme recueillie par BFM, le feu pourrait avoir pris au plafond. Attention, parce qu'il y a aussi des vidéos qui circulent qui manifestement ont été faites sous IA. Le feu pourrait avoir pris au plafond, il se serait embrasé par des bougies à étincelles. Vous savez, ces bougies posées sur les bouteilles, notamment les bouteilles de champagne. Elle-même brandie par une jeune femme juchée sur les épaules d'un garçon dans un moment de liesse. Les étincelles pourraient avoir causé l'embrasement de tissus accrochés au plafond. Attention justement aux histoires de mousse acoustique renifleur de paix, parce que je me demande si cette vidéo où on voit de la mousse acoustique au plafond prendre feu, je me demande si justement ça n'est pas une vidéo qui a été générée par IA. Donc soyons extrêmement prudents sur ça. Peut-être que c'est le cas, mais aujourd'hui, vous savez qu'en termes d'images, de photos, de vidéos, il faut être extrêmement prudent. Certains ont estimé que ces images-là étaient un peu louches, quoi. Là, ça parle de tissu. On verra bien ce qui s'est passé. Il s'agit bien de découvrir ce qui s'est passé et d'établir les responsabilités. Il n'est pas normal que des dizaines de personnes trouvent la mort, évidemment, dans un bar. Voilà. Manifestement, il y a des conditions de sécurité qui n'étaient sans doute pas respectées. Donc, à un moment, il faudra établir les responsabilités dans ce drame. Les étincelles pour avoir causé l'embrasement de tissus accrochés au plafond. La vidéo montre ensuite une lueur orange au plafond derrière le bar, au centre de la pièce et au premier plan dans l'ombre, la silhouette de jeunes hommes en sweat qui se hâtent vraisemblablement vers la sortie au rez-de-chaussée. Manifestement, il n'y avait qu'un escalier. Alors là, je parle au conditionnel avec beaucoup de prudence. C'est la différence entre une démarche journalistique qui se veut rigoureuse et l'empressement de certains sur les réseaux sociaux, sur les chaînes d'infos qui sont toujours prêts à prendre tous les risques quant à la véracité de l'information, à la vérification de l'information pour être les premiers à donner une info. On donne une info à 8h le matin, à midi on se rend compte qu'elle est fausse, c'est pas grave, on s'excuse pas, pourquoi, on corrige rien, on donne la deuxième info, une mauvaise info, une bonne info, ça fait deux infos. Bon, il faut s'inscrire en faux contre ça, parce que c'est extrêmement dangereux en fait de laisser des gens nous informer comme ça. Donc moi je mets beaucoup de prudence dans ce que je dis. Effectivement, j'ai lu qu'il n'y avait qu'un seul escalier pour échapper, pour sortir de cette salle qui était au sous-sol, quoi. Voilà. Si c'est le cas, effectivement, ça ne me semble pas correspondre à des critères de sécurité minimum, quoi. Les premiers qui ont pu s'échapper ont eu de la chance. Il semblerait ensuite qu'il y a eu comme un appel d'air. L'atmosphère s'est embrasée, raconte un habitant âgé de 47 ans, qui connaît bien cette commune. Lui se trouvait chez lui et a entendu, comme de nombreux témoins, la détonation d'une déflagration. Il y a eu une explosion aussi. Voilà. Provoquée par l'incendie. Adrien, lycéen dijonnais de 17 ans, cherchait avec des amis un lieu où poursuivre la soirée. Il est tombé devant le Constellation au moment précis où les flammes embrasaient l'établissement. On a vu des gens sauter par les fenêtres, d'autres brûler. D'autres encore criaient. Sous ses yeux, la scène vire au chaos. La véranda tout en verre montre des ombres prises au piège. D'ailleurs, c'est pas très précis. Est-ce que c'était au sous-sol ou est-ce que c'était au rez-de-chaussée? C'est la question posée par Dexter dans le chat. Chacun essayait de s'en sortir comme il pouvait. Il n'y avait pas d'entraide. C'était chacun pour soi. Il évoque des vêtements calcinés, des paupières brûlées, des visages déformés par la panique. Quand on a vu l'état des premières personnes sorties, on s'est demandé comment allaient être celles qui restaient à l'intérieur. À 1h32, les premières voitures de la gendarmerie et de la police communale arrivent, suivies des pompiers, de 42 ambulances. Tout ce que le canton compte de secours monte vers la station de ski. 150 intervenants sanitaires sont mobilisés au secours des victimes qui suffoquent même à l'air libre, peut-être en raison de la toxicité des fumées. On me dit le feu, certains me disent le feu a bien pris au sous-sol, mais la sortie était au rez-de-chaussée. Qui suffoque même à l'air libre, peut-être en raison de la toxicité des fumées dégageant une odeur irrespirable. Le bruit des hélicoptères sature le ciel, ils feront la navette toute la nuit pour évacuer vers les hôpitaux les blessés. Alors, on parlait à l'instant de scènes de panique où il n'y avait pas d'entraide, où c'était du chacun pour soi. Le chef du département de la sécurité du Valais, Stéphane Ganzer, lui dit des jeunes gens n'ont pas hésité à porter secours. On a assisté à des comportements héroïques. Certains habitants s'interrogent malgré tout. Pendant que certains brûlaient, il y en avait qui filmaient. Je trouve ça inquiétant, confie ce quadragénaire habitant de la commune. L'urgence ce jeudi soir restait à soigner les blessés, certes entre la vie et la mort, identifier la quarantaine de cadavres retrouvés dans les décombres. Ce macabre travail, synonyme d'une insoutenable attente pour les familles endeuillées, pourrait prendre plusieurs jours. Il y a des envoyés spéciaux du journal à Crans-Montana, là, qui sont allés voir des témoins sur place. Est-ce qu'on a des informations supplémentaires sur les conditions de ce drame? Je suis en train de lire. Pas tellement dans cet article, en fait. Je vous le disais, il y a plusieurs journaux qui en parlent ce matin. C'est aussi la une de Libé. Mais j'ai eu l'impression dans Libé qu'il n'y avait pas beaucoup plus d'infos que dans Le Parisien ce matin. De la fête au cauchemar, vous le voyez. Ils ont mis ça page 8 et 9. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, je pense que hier soir, les journaux n'avaient pas encore beaucoup d'infos. On va continuer à suivre cette actualité dans les prochains jours. Je vous lis un petit peu et puis on enchaîne. C'est assez dur, comme je suis proche du lieu, me dit le Bloop, je vois beaucoup d'avis de disparition sur les réseaux et on ne peut que penser au pire. Il y avait des mineurs, consignes de sécurité non respectées, me dit Calice. Ayons une pensée pour les familles des victimes quand même. C'est monstrueux, quoi. Alors, on va être prudent. Puisque tous ces éléments demandent à être confirmés, mais effectivement, si certaines des informations que nous avons sur le drame se confirmaient, ce serait criminel. C'est ce que résume Red Robert dans son message dans le chat. Le cocktail était quand même d'une dangerosité criminelle, des mineurs de moins de 16 ans, de la mousse toxique isolante au plafond, bas. Des artifices pyrotechniques en sous-sol, de l'alcool en masse en milieu confiné, 400 personnes pour une jauge max de 300, c'est criminel si tous ces paramètres sont confirmés par l'enquête. C'est là où on va être prudent, bien sûr, mais on va suivre l'enquête. Reynaldos me dit, d'après les infos ici en Suisse, le Constellation était enregistré comme un bar, donc avec des normes de sécurité moindres. Murph me dit, il y a des vidéos de plus d'un an où on voit de l'isolant phonique en polyuréthane dans ce bar qui n'a rien à faire là et qui est bien visible. Hein, ceux qui l'ont installé sont en faute évidemment, mais il y a un problème de contrôle aussi sans doute, des contrôles qui n'ont pas été faits, quoi. Voilà. À quoi ça sert de trouver un coupable? Les gens ne vont pas revenir pour autant. Alors, l'UDR, la réponse à ta question, elle est très simple. Trouver un coupable, établir la chaîne des responsabilités, c'est permettre que cela ne se reproduise pas. Quand il y a des drames comme ça, dans des pays un minimum responsables, eh bien, ça montre qu'il y a une chaîne de vérification des normes de sécurité qui n'a pas été faite. Ou la loi, ou le règlement n'est pas assez rigoureux, ou. Le cadre législatif n'a pas été respecté, c'est-à-dire que les contrôles n'ont pas été faits. Ouais. Donc il y a toute, il y a une, il y a une, parce que normalement dans un pays comme la Suisse, normalement il doit y avoir un cadre législatif, un cadre légal qui détermine comment un établissement accueillant du public doit pouvoir le faire, quoi, avec des normes de sécurité, bien sûr, notamment anti-incendie. Donc, s'interroger sur les responsabilités, c'est, en tant que société, c'est se demander comment faire pour que ça ne se reproduise pas. Donc, c'est un débat intéressant. C'est pas intéressant, c'est un débat essentiel, pardon. On a l'occasion d'en reparler, je vous promets de suivre ce dossier. Je pense que dans les prochains jours, on devra en savoir un petit peu plus sur les conditions de ce drame. Alors, le deuxième sujet dont je voudrais vous parler ce matin, j'ai hésité à vous en parler parce que ça me hypait pas plus que ça, mais je me suis dit que c'était quand même un passage obligé. Ce sont les vœux du président Macron. Alors, pourquoi j'ai hésité ? Pourquoi j'ai hésité ? Parce que moi-même je les ai pas regardés. Le soir du réveillon à 20h, comme beaucoup d'autres, j'avais autre chose à faire. Je m'attendais pas à des déclarations fracassantes. Bon, il y en a pas eu, mais ça reste le premier personnage de l'État. Ça reste le président de la République. Donc à un moment, s'il a des choses à dire aux Français, qu'on s'en fasse un minimum l'écho, bah, pourquoi pas. Donc on va peut-être pas y passer 10 heures, mais quelqu'un me disait dans le chat tout à l'heure que c'était MMG, qu'il avait été agréablement surpris, qu'il y avait peut-être eu des choses dedans. Donc vite fait, dans les échos, j'ai trouvé un article ce matin qui revenait sur ses vœux. Pour ses vœux, Macron assure qu'il présidera jusqu'à la dernière seconde. Alors déjà, c'est une info. Après, c'est une parole politique. Parfois, les politiques nous disent des choses et reviennent là-dessus. Mais à la question de savoir s'il va démissionner, par exemple, et provoquer une présidentielle anticipée, demandée par certains partis politiques, lui réaffirme que non. Pour ses voeux, Macron assure qu'il présidera jusqu'à la dernière seconde. Dans une sobre adresse aux Français pour ses voeux, le chef de l'État, pourtant très empêché, affaibli depuis la dissolution, une des pires décisions de ses deux mandats quand même, cette dissolution ratée, a tenté de contrer l'idée d'un pays à l'arrêt. Sobre, sans fioriture, en moins de 10 minutes, ce qui est très très court pour le président Macron. C'est ainsi que le chef de l'État a adressé ses 9e voeux aux Français mercredi soir. Sans pouvoir beaucoup promettre désormais, faute de pouvoir politique, de majorité au Parlement, Emmanuel Macron n'a pas annoncé d'initiative particulière, voilà, ni suggéré d'incertain référendum comme l'an dernier. Donc, je ne me suis pas trompé, il n'y avait pas grand-chose. Mais dans le marasme ambiant, il a tenté de montrer que le pays tient. Notre pays tient, fort de notre économie, de notre croissance. Il est vrai que les derniers chiffres sur la croissance française et sur le chômage sont plutôt positifs par rapport à ce qui est attendu. Hein. Il y a plusieurs articles ces derniers jours sur le sujet, je ne vous les ai pas mis de côté. Notre pays tient, fort de notre économie, de notre croissance, a d'abord incité le président avant d'évoquer les désordres du monde. Kaoli, merci pour ce message qui remonte le niveau du débat. Merci à la modération. Nous assistons, donc on parle de l'actualité internationale, au retour des empires, a-t-il prévenu, mais aussi a-t-il reconnu aux impatiences et aux colères de notre société. Il a d'ailleurs assuré en partager certaines et à nouveau insisté pour que la France ait vite un budget. La France n'a toujours pas de budget, c'est indispensable. Sur les colères et les problèmes, le chef de l'État a évoqué les agriculteurs, avec le Mercosur qui va trop cœur les tensions en janvier, on en a parlé, on en reparlera du Mercosur, la lutte contre le narcotrafic, l'immigration illégale, sur tous les chantiers qui nous attendent, formation des enseignants, décentralisation, je sais le gouvernement à la tâche, dit-il. Alors, ce que les médias ont retenu de ses vœux aux Français, c'est quand il a dit que l'année 2026 devait être une année utile, malgré la crise politique, malgré la paralysie politique, malgré son impuissance politique. Insistant sur trois domaines qui devraient avancer malgré tout en 2026, le service militaire volontaire, dont je vous ai déjà parlé ici, sur la base du volontariat, rappelons-le. On aura l'occasion d'en reparler quand les premiers jeunes Français et Françaises rejoindront ce nouveau service militaire. La protection des adolescents face aux réseaux sociaux, on va en parler en fin de revue de presse aujourd'hui. Il y a un projet de loi qui va arriver. Et la suite de l'examen du texte sur la fin de vie. Très affaibli, ne pouvant pas se représenter en 2027, Emmanuel Macron n'a pas enjambé la question de la présidentielle, bien au contraire, comme un message à tous ceux qui voudraient le voir abandonner son mandat plus tôt, il a assuré qu'il sera au travail jusqu'à la dernière seconde. L'espoir de certains, le fantasme d'une démission du président qui ferait que la présidentielle n'aurait pas lieu en 2027, mais en 2026, a priori, lui dit non. Et s'il ne participera pas à la campagne pour la première fois depuis 10 ans, puisque la Constitution dit qu'il ne peut pas faire plus de 2 mandats consécutifs, il a assuré qu'il fera tout pour que celle-ci se déroule sans ingérence étrangère. C'est à ce moment-là qu'il a formulé 3 vœux pour la nation, l'unité, en insistant particulièrement sur la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, son deuxième vœu, celui d'une force et indépendance pour la France et pour l'Europe en matière de défense et d'industrie. Là aussi, il a assuré que l'Europe de la défense, pour laquelle il plaide depuis 2017, va accélérer en 2026. Des initiatives vont être prises le 6 janvier par les Européens à ce propos. Enfin, dernier clin d'œil, à l'ADN qu'il a toujours défendu depuis 2017, Emmanuel Macron a formulé des vœux d'espérance, maniant l'anaphore avec un ne renonçons pas au progrès. Le président Macron qui a déclaré 2 points, ouvrez les guillemets, au fond, a-t-il ajouté, alors que le RN a le vent en poupe, je nous souhaite de résister à l'ère du temps. Nous y arriverons, dit-il. Réaction des oppositions. Marine Le Pen a pointé en 2025 une année d'enlisement, a espéré la grande alternance en 2027. Jordan Bardella veut faire 2026 avec les municipales une année de conquête. Voilà. Jean-Luc Mélenchon, qui se sent concerné par une litanie de mots vides, voilà. Quant à Édouard Philippe, autre candidat déclaré à la présidentielle, s'il a répété que plus rien de décisif ne se ferait jusqu'à la présidentielle, il a bon espoir que le grand débat démocratique de la présidentielle soit à la hauteur des immenses enjeux et a souhaité que les Français adhèrent massivement au projet de réparation, de modernisation, de relance du pays, blablabla. Bref, votez pour moi, quoi. Voilà. Bon. Il n'y avait pas grand-chose dans ses voeux, mais je pense qu'il fallait quand même passer dessus vite fait. Mélenchon 2027 nous dit Ultra Wild Chicken. Ok. Alors Mélenchon, ça ne s'écrit pas comme ça, par contre. Quand vous soutenez un candidat, essayez de l'écrire correctement, c'est pas très respectueux pour lui. Sinon, ça fait troller, quoi. Ça fait piètre militant, quand même. Hein, ça fait militant de Wish, un peu. Hein. Alors, pour ceux qui appellent à ma candidature en 2027, le problème, c'est que je viens de découvrir God of War. Voilà. Et j'ai peur que mon agenda présidentiel soit impacté par les nuits que je vais passer sur ce jeu de fou. Voilà. Ouvrir des cadavres en deux, c'est aussi un programme, c'est aussi une perspective. Comme le dit Émile Cao, voilà, il y a des priorités, on comprend, t'inquiète. Donc je vais voir. Ou alors je propose un, comme le dit Kletos Bright, ou je propose un gouvernement à la Kratos, quoi. Dans l'efficacité brute, on va dire, quoi. Donc voilà pour les vœux du président. Je vous avais dit qu'on n'y passerait pas toute la matinée. Télèque, on est avec toi. Je me suis trompé de train, je dois attendre très longtemps. Merci pour ton live. On est avec toi. J'espère que tu n'as pas froid. J'espère que tu es au chaud quand même. J'espère que tu as pu te réfugier derrière, dans un petit café. Hein ? Mais en tout cas, on est avec toi. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Dans Le Parisien. Scandale autour des propos d'un député LFI. Mais qu'est-ce qu'il a dit, monsieur ? Accrochez-vous, hein. Donc, selon Carlos Martens Bilongo, alors parmi ses propos, il y a ça. La pauvreté intellectuelle des gens du Nord explique le racisme. Lisons. Xavier Bertrand. Alors ça, c'est Xavier Bertrand, un des représentants du LR les plus farouchement anti-RN. Sébastien Chenu. Sébastien Chenu, RN, si je dis pas de bêtises. Sont montés au créneau, dénonçant le mépris de ce député Carlos Martins Bilongo, j'espère que je prononce bien son nom de famille, son patronyme, hein, pardon, à propos des gens du Nord. Invité de l'émission La Librairie Africaine sur YouTube, le 23 décembre dernier, le député LFI a tenu des propos qui ont suscité la colère de ses deux élus du Nord. Ah oui, d'accord. Le président LR des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, et le député du Nord, Sébastien Chenu, sont deux élus de la région. L'émission a été supprimée de la plateforme, ils n'ont pas pu la voir en intégralité, donc Le Parisien, ils sont allés voir la vidéo, elle a été supprimée. Mais selon les extraits qui sont toujours disponibles sur les réseaux sociaux, l'élu du Val d'Oise discutait avec l'écrivain Ludovic Herman Vanda et l'avocat Mbeko Tabula de l'importance de la présence des tirailleurs sénégalais, de soldats et résistants venus d'Afrique pour la libération de la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc jusque-là, tout va bien. Ainsi que du racisme en France. Mon propos par rapport au grand remplacement, c'est que ça ne gênait pas quand en première ligne il y avait des tirailleurs. Indice Carlos Martins Bilongo. Tout va bien. Qui ajoute qu'il est bon de rappeler que la France de Vichy a collaboré. Oui. Engagé ensuite sur la conversation du racisme, il poursuit, deux points ouvrez les guillemets, il y a eu des ouvrages là-dessus, des statistiques par rapport au racisme, là où tu as une pauvreté intellectuelle dans les territoires, dans le nord de la France, etc., les racistes sont en avant. Alors quelqu'un me dit dans le chat, moi je veux bien l'entendre. Hein. Y a Kounassou qui dit le député concerné a debunk cet article sur son Twitter des passages sortis de leur contexte. Alors je veux bien l'entendre, ça que le passage il est tiré, il est sorti du contexte, mais est-ce qu'il a dit cette phrase ? Il y a eu des ouvrages là-dessus, des statistiques par rapport au racisme, là où tu as une pauvreté intellectuelle dans les territoires, dans le nord de la France, etc., les racistes sont en avant. Des paroles dénoncées par Xavier Bertrand, après Jean-Luc Mélenchon, c'est maintenant l'un de ces députés qui s'attaque aux gens du Nord. Nous n'avons aucune leçon à recevoir d'eux. Les insultes de Carlos Martins Bilongo ne méritent que du mépris de la part des habitants des Hauts-de-France. Le président de la région estime que c'est une stratégie assumée de la France insoumise qui est celle de tous les extrêmes, diviser, opposer les uns aux autres pour créer le chaos. De son côté, Sébastien Chenu évoque un mépris de la part de l'élu francilien. Le Nord n'a rien à envier au 93, puisque Bilongo était autrefois élu du Val-d'Oise. Ça n'a rien à voir, le Val-d'Oise, c'est pas le 93. C'est la Seine-Saint-Denis. Le Val-d'Oise, c'est pas le 93. Qu'est-ce qu'il raconte ? C'était les fêtes ou quoi ? Ça n'a aucun sens. Enfin, peu importe, mais bon, je passe. Ouais, c'est ça, c'est 95. Bon, peu importe. Du coup, c'est peut-être le Parisien qui rapporte que M. Chenu s'est un peu pris les pieds dans le tapis. Voilà. Le Nord n'a rien envie au 93 et produit chaque année soignants, avocats, entrepreneurs et un peuple du travail qui vous en... Il manque des mots. Qui vous en... Enfin, homme. Je sais pas ce qu'a voulu dire M. Chenu, mais il manque des mots. Et qui vote très bien. Poursuit le vice-président de l'Assemblée nationale sur X, faisant référence à la vague RN dans le pays, notamment dans le Nord, lors des dernières élections. Vous emmène, oui, vous emmène, sans doute. Vous emmène, vous en kikine, sans doute, oui. Dans la même émission, parce que c'est pas terminé, le député LFI avait sous-entendu que Rachida Dati, donc dans la même émission, avait obtenu ses différents postes en politique via une promotion canapé ou en couchant avec des hommes. Ce sont des guillemets, donc il aurait dit ces mots-là. Rachida, elle survit grâce à autre chose, a-t-il déclaré. Chacun a ses moyens. Avait ensuite dit l'élu, qui avait néanmoins tenu vendredi à revenir sur ce propos misogyne. Je regrette les propos sexistes que j'ai employés, donc il les a tenus, il les reconnaît, qui ne reflètent absolument pas les principes qui doivent être les nôtres. Donc il reconnaît ses propos, donc il les a bien dit. D'accord. Okay. Ni le respect qui est dû aux femmes engagées en politique, quelle que soit leur sensibilité. Il a dit que Rachida Dati devait son parcours politique au fait qu'elle avait couché avec des hommes. Aïe. Sur les habitants du Nord, en revanche, Carlos Martins Biongo ne s'est toujours pas exprimé ce jeudi. Quelqu'un me dit que sur son réseau, il a réagi. Il a dit que les propos avaient été sortis du contexte. Alors je vais aller voir à la source, Carlos Sainz, non, c'est pas ça. Martins. Je l'ai. Alors, député du Val d'Oise. Bon, allons voir la parole à la défense quand même. Alors, j'ai été invité à intervenir sur une plateforme autour d'un débat sur la place des personnes racisées en politique, droite comme de gauche. Je regrette les propos sexistes que j'ai employés, donc bon, bah ça, pour le coup, il les reconnaît, qui ne reflètent absolument pas les principes qui doivent les nôtres, ça, je viens de le lire. J'ai présenté mes excuses à Madame Dati. Donc ça, et donc il a bien dit ça. Ah, mais oui, mais donc il parle pas de... Quelqu'un me disait que sur son compte X, il avait parlé de déclarations sorties de son contexte, mais lui, mais non, je suis dessus, là. Ou alors j'ai loupé un tweet. Fake news. Bah, les gars, dans le chat, je l'ai lu. Info chat. Qui dit ça? Dans le chat, j'ai lu noir sur blanc tout à l'heure. Sur X, ils parlent de propos tenus hors de leur contexte. Je suis sur le compte X. Je suis dessus. C'est ça qu'on fait ici, on vérifie les infos. Bah alors? Mais c'est non, il n'y a rien, les gars, là. Bah alors? Bon, manifestement, il a pas fait cette déclaration, ou alors il l'a supprimée. Toujours vérifier une information. Ouais, tout à l'heure, j'ai lu cette info parce que ça me semblait important. Quelqu'un me dit dans le chat, mais sur son compte X, il parle de propos tenus hors... de propos sortis de leur contexte, etc. Je me dis, ok, c'est intéressant. Bon, bah, comme je vais au bout du bout, je vais sur le compte X du monsieur, ce tweet n'existe pas. Ou il a été supprimé. Donc là, on a un problème. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas revenu sur ses propos. Non, le premier, on vient de le lire, c'est il parle juste de ses propos sur Dati. Ah, dans ses réponses non, les réponses sont fermées, on ne peut pas répondre. Désolé. Ok, bon, c'est très embêtant quand même, cette histoire, quoi. Bon, le problème aussi, c'est qu'on n'a plus accès à la vidéo en entier. Parce que la vidéo a été supprimée. Pourquoi la vidéo a été supprimée? Je pose la question, j'ouvre le débat. Pourquoi la vidéo a été supprimée? Parce que ce qui permettrait de s'assurer de la réalité des propos de ce député, ce serait de pouvoir voir cette vidéo. Mais cette vidéo n'est plus. On a juste des extraits. Okay. Bon, je vous lis sur cette affaire. Waouh. On a un message de Louis dans le chat. Bonne année, est-ce que tu as passé de bonnes fêtes? Tu savais qu'à 2 heures près, j'aurais été mort. Comme tu le sais, je suis valaisan et avec des potes, on était aux constellations 2 à 3 heures avant l'incendie avec des potes, comme chaque année. On n'y reste jamais tard, car noir de monde, on préfère rester entre potes. Voilà. Incroyable. Mais en tout cas, moi, ce que cette histoire m'enseigne, c'est que... Bon. Je prends régulièrement des sauces parce que je rappelle assez régulièrement que je ne suis en rien séduit par les idées du RN, ce qui me semble juste une évidence. Et notamment récemment encore, parce que j'ai rappelé que on pouvait classer ce parti... dans la famille de l'extrême droite. Bon, je prends les petits messages tous les jours. Bon, peu importe. Et dans le même temps, je suis aussi attaqué parce que j'accepte de discuter avec des gens qui portent ces idées, qui partagent ces idées, y compris ici. Il y a des gens ici qui votent Marine Le Pen. Enfin, ils peuvent plus voter Marine Le Pen parce qu'elle est inéligible, mais qui votent Rassemblement National et qui peuvent s'exprimer ici du moment qu'ils respectent un cadre dans leur expression de correction minimale. Et de respect de la loi. Et le simple fait que j'accepte de discuter avec ces personnes-là qui ne pensent pas comme moi, m'est aussi reproché. Voilà. Donc ça, je prends des deux côtés. C'est bien ça. Vraiment, je me régale. Mais pourquoi je le fais? Parce que insulter le bord adverse, le camp adverse, n'est... Oh, c'est les enfants déjà? C'est les enfants. Ah merde! Bougez pas. Faut que j'accueille les enfants. Toutes mes excuses. Mon amoureuse a un rendez-vous ce matin, donc elle m'a déposé les enfants. Je les ai mis dans le canapé du studio à côté, le canapé de Simplay. Voilà. Ils ont des. Voilà. Je m'excuse auprès de ceux qui nous écoutent en audio, en podcast, là, pour ce long blanc, ce long silence. Donc, ma position, mais qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut rien. N'oubliez pas que toutes les. Moi, je vous rapporte l'actualité, mais parfois j'émets des opinions, mais n'oubliez pas que ces opinions, elles ne valent rien. Ce ne sont que mes opinions. Elles sont challengeables, Vous les partagez, vous les partagez pas, on est là pour discuter. Bon, mon opinion là-dessus, c'est que insulter le camp politique d'en face, celui avec lequel vous n'êtes pas d'accord, ne sert à rien. Voilà. Vous n'allez jamais convaincre. Parce que l'intérêt du débat politique, c'est d'échanger des arguments. C'est éventuellement de faire douter ceux qui ne pensent pas comme vous. Éventuellement même de les convaincre. Hein. De leur faire se poser des questions qu'ils ne se posaient pas sur certains sujets, par exemple sur la question de l'immigration. Voilà. Si vous insultez ces gens, à quel moment, avec une insulte, vous réussissez à les faire douter, éventuellement à les amener sur un cheminement de réflexion intellectuelle pour les faire changer d'avis? C'est ça l'intérêt du débat politique. Voilà. À quel moment, en les insultant, vous allez provoquer ça? Ah, rien. Qu'est-ce que vous faites en les insultant? Vous rassurez-vous. Vous vous proclamez dans le camp du bien. Hein. Les cons, c'est les autres. Et vous êtes formidable. Et en fait, ça ne sert à rien. Donc, quand vous insultez, c'est-à-dire quand vous pratiquez le degré zéro du débat politique, c'est-à-dire quand vous êtes dans l'insulte du camp d'en face, voilà, vous le faites pour vous essentiellement, ou pour vos amis, voilà, et vous serrez les coudes en vous disant, bah, nous sommes les gens du bien. Nous savons quelle est la bonne pensée politique. Voilà. Vous êtes tous des débiles, voilà, et on se regarde, et on est très heureux, et puis surtout, on reste entre nous, hein, surtout, il ne faut pas discuter avec les autres, oh là là, surtout pas! Voilà. Donc, bon, moi, cette démarche-là me semble pas intéressante. Bah, je peux me tromper, peut-être que c'est moi qui ai tort, peut-être qu'il faut refuser de discuter avec certains. Moi, je ne pense pas. Alors, ce qui est formidable, c'est que ce faisant, je suis agressé par les deux camps. Voilà. Mais peu importe. Voilà, c'est mon opinion, mais elle n'est que mon opinion. Vous pouvez la challenger, vous pouvez pas être d'accord avec ça, quoi. Moi, ça ne me dérange pas de discuter avec des gens qui sont pas d'accord avec moi. Quel faisan? Le faisan, tu sais, l'animal à plumes, là, bien sûr. Bon, les enfants sont au chaud. Les enfants sont au chaud. Ça va, Hélène? Tout le monde est bien installé? Tu leur dis de venir me voir s'il y a quoi que ce soit? Tu leur dis de venir me voir s'il y a quoi que ce soit? Qu'ils n'hésitent pas? Ils sont bien là? Il fait assez chaud? Ok, bon, je les garde avec moi. Je t'aime. Tu veux dire bonjour au chat? Attention, attention, le suspense est fou. Hélène va faire sa première apparition ever en 5 ans. Si une fois on t'a vu de dos en Corse. Tu veux passer. Oh, tu veux dire bonjour? Les gens, on veut voir la main. Ils disent les gens, on veut voir la main. Face reveal. Une petite main, un petit coucou. Attention! Pour la deuxième fois dans l'histoire de cette chaîne, on va voir la main d'Hélène. Hélène existe. Hélène existe. Et une canette de Red Bull par terre. Tout le monde te dit bonjour, ma puce. Beau vernis, dit Madame Guesmer. Joli vernis, dit Atiris. Ils ont l'œil, hein. Ah, ils ont l'œil. C'est une actrice, je suis sûr que tu l'as payée, Sam, me dit. Peut-être qu'Hélène n'existe pas, hein. Joli manche. Ce n'est donc pas une IA. C'est une doublure main. Le bisou, le bisou. Ah non, pas de bisou, bah non, parce qu'il faut qu'elle passe le visage dans le champ. Attends, ma puce. T'as besoin de quelque chose? Tu me dis? Ok. J'ai mon téléphone, que je vais mettre en charge d'ailleurs. Les enfants, vous venez voir papa s'il y a quoi que ce soit. Hein. Ils ont leur casque. Bon, très bien. On continue. Non, c'est pas Joe qui s'est fait une manucure, mais non, oh là là, vous êtes bête. Alors, un, deux, trois, quatrième sujet, on va parler du Rassemblement national encore, mais avec Trump. Voilà, c'est un article dans L'Humanité. Samuel a un crush sur sa femme. Ah oui, ça, je te le confirme, ouais. Ah, depuis longtemps déjà. Depuis 15, 16 ans bientôt. 16 ans bientôt. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Trump au secours du RN contre la justice française. Voilà. Article dans l'Humanité, page 13, aujourd'hui. Les États-Unis veulent multiplier les sanctions contre des personnalités européennes, à l'image de l'ex-commissaire européen Thierry Breton, donc ça c'est une info, on l'a vu, hein, Thierry Breton, l'ancien commissaire européen, il est interdit de territoire américain. Interdit, il n'a pas le droit de voyager aux États-Unis, parce qu'il est l'un des pères des règlements européens, des directives européennes pour encadrer les réseaux sociaux, notamment américains, et leurs excès. Pour ça, Trump, ça ne lui a pas plu du tout. Ça, c'est une info. Ce que nous raconte l'Humanité ce matin, à telle heure ma puce, c'est que les magistrats, les juges qui ont condamné Marine Le Pen en mars dernier sont aussi menacés. Voilà. Alors, lisons. Extrême droite de tous les pays, unis contre la justice et l'état de droit. En soutien au parti conservateur et nationaliste, Donald Trump veut étendre au-delà de ses frontières ses méthodes brutales et arbitraires. Bon, méthode jusqu'ici notamment réservée à son territoire. Des prémices d'une internationalisation fasciste matérialisées par des sanctions individuelles que distribue le président américain. Sur les informations de l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, paru dans un article du 30 décembre, non démenti par le département d'État américain, l'administration Trump veut... Alors, prenons cette information avec des pincettes, avec prudence, parce que c'est une information d'un média allemand, de qualité certes, mais d'un média. C'est pas une annonce de Washington, du département d'État ou même de Trump. Mais selon cette information de Der Spiegel, certes pas démentie par Washington, l'administration Trump voudrait, conditionnel, multiplier les interdictions de visa envers diverses personnes européennes au mépris des souverainetés des droits nationaux. Les fonctionnaires des services de renseignement allemands qui ont placé le parti d'extrême droite AFD sous surveillance, ainsi que les magistrats français ayant condamné en première instance Marine Le Pen à 5 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics, seraient désormais visés. Conditionnel. Selon le magazine d'investigation allemand, donc Der Spiegel, la Maison-Blanche attendrait la cour d'appel, la décision de la cour d'appel en France qui se penchera sur cette fameuse affaire des assistants parlementaires européens qui a valu à Marine Le Pen 5 ans d'inéligibilité et donc a priori, sauf décision qui, game changer de la cour d'appel, ne pourrait pas participer à la prochaine présidentielle. Donc la Maison Blanche attendrait la décision de la cour d'appel qui devrait se prononcer entre le 13 janvier et le 12 février. C'est dans pas longtemps. Marine Le Pen pourra-t-elle se présenter à la présidentielle 2027? On va le savoir dans pas longtemps. Et en fonction de cette décision, l'administration américaine pourrait, conditionnelle, interdire de séjour l'ensemble des magistrats impliqués. Sur quelle base juridique? Je trouve ça assez passionnant. Merci Lexi, merci à toi. Le vice-président Jed Evans, qui avait annoncé la couleur lors du discours de Munich en février 2025, a même qualifié la condamnation de Marine Le Pen de chasse aux sorcières et compte donc y répondre en réactivant le macartisme, pour ceux qui connaissent un petit peu leur histoire. Donald Trump avait lui-même donné un écho international aux attaques du RN contre l'indépendance de la justice et l'état de droit, alors même que de nombreuses preuves ont été apportées par le tribunal correctionnel pour démontrer l'existence d'un système ayant permis, selon lui, de détourner 4,6 millions d'euros. L'offensive de Marine Le Pen contre les juges rouges allant jusqu'à l'organisation d'un rassemblement public a d'ailleurs rappelé les attaques de Trump contre les poursuites judiciaires dont il a fait l'objet entre 2021 et 2024 liées à des accusations de fraude et d'agression sexuelle. L'acharnement de Trump sur les juges fédéraux, c'est exactement ce que nous avons vécu en France en mars dernier lorsque Marine Le Pen a été condamnée, observe Denis Laffey, auteur d'un livre qui s'appelle « Patron, la tentation Trump », c'est-à-dire un déferlement contre la justice, les juges, l'état de droit. Clamakin l'appelle, le procès en appel, c'est février-mars. Le gouvernement américain envisage donc une nouvelle salve d'interdiction individuelle d'accès au territoire, nouvelle arme trouvée par l'administration Trump pour faire pression et étendre son influence. Rappelons que le 23 décembre, 6 mois après les juges de la Cour pénale internationale, car les juges de la Cour pénale internationale sont eux aussi interdits de séjour sur le territoire américain. Le 23 décembre, l'ancien commissaire européen Thierry Breton a donc été interdit de visa américain pour avoir été à l'origine de la directive européenne imposant aux plateformes numériques le signalement de contenu problématique perçu comme une atteinte à la liberté d'expression par Donald Trump. 4 représentants d'ONG contre la désinformation et la haine en ligne ont subi la même sanction. Les Britanniques Claire Melford et Imran Ahmed, ainsi que les Allemandes Anna Lena von Hodenberg et Josephine Ballon de l'association Aid 8. Tous ont en commun la lutte contre la libération de la parole raciste, xénophobe, homophobe et sexiste en ligne que les extrêmes droites cherchent ainsi à protéger. Bon. Alors, interrogation sur ce qui pourrait, sur la sanction qui pourrait frapper les magistrats qui ont condamné Marine Le Pen. Là, c'est pas des interrogations. Ces gens sont interdits de territoire américain. Je vous lis. Sachant qu'il n'est même plus au pouvoir dans l'UE. Oui, MMG, Thierry Breton n'est plus en responsabilité. Oui. C'est ça qui est fou. Question de FRJ, j'espère que tu vas bien. La question est, si cette décision est confirmée, quelle sera la réponse de l'État français à l'interdiction de séjour de certains officiels US? Il faudrait que ce soit une décision européenne déjà, non? Plutôt. MMG nous dit, déjà à titre personnel, en vue d'une éventuelle embauche chez un employeur dans mon secteur, j'ai déjà été notifié par ce futur potentiel employeur qu'il ne fallait plus que j'aille aux États-Unis à cause de la collecte de données, puisque vous savez que maintenant, même pour les citoyens français qui normalement sont dispensés de visa pour aller aux États-Unis, même pour les Français, il y a de nouvelles conditions pour pouvoir voyager en tant que, ne serait-ce que touriste, aux États-Unis, avec notamment un accès à vos données personnelles, votre historique sur Internet, les gens que vous suivez, etc. quoi. Ça non plus, c'est pas du... C'est pas de la rumeur, c'est un truc qui est souhaité par l'administration actuelle américaine. Ça nous renverra d'ailleurs bientôt au Mondial 2026, où pour certains supporters de certaines équipes, il va être très compliqué d'aller soutenir leur équipe. À tes souhaits. Je vous lis. Wasp nous dit dans le chat. Attendez, Wasp, je reviens à toi. J'aurais un premier message, toujours important un premier message. Toujours important un premier message parce que ça donne le ton. C'est le premier message de quelqu'un dans une communauté, dans un chat. Ému par François Bayrou, premier message. Les gauchistes du chat parlent un peu trop pour un parti qui n'a pas passé le second tour depuis 2012. En fait, tout le monde a le droit à la parole ici, ému par François Bayrou. Voilà. Donc les gens qui ont des sympathies pour le RN ont le droit de s'exprimer ici, qu'on s'est fait avec intelligence et correction. Et les gauchistes du tchat, comme tu les appelles, aussi, ils ont le droit de s'exprimer. Donc, ton avis sur qui a le droit de parler ici ou pas le droit, on s'en carre le cul pour dire les choses. Bon, les enfants ont des casques, je fais attention, ils m'entendent pas normalement. On s'en carre le cul. Hein. Ton premier message, j'ai plus la merde. Ce n'est pas toi qui va dire qui a le droit de parler ici. Voilà, tout le monde a le droit de parler du moment où c'est correctement fait. Ton premier message, j'espère que le deuxième sera plus intéressant. Quoi. Voilà. Et puis, le message, les gauchistes du chat parlent un peu trop pour un parti qui n'a pas passé de second tour depuis 2012. Les gauchistes du chat pourraient te répondre, les soutiens du RN, vous parlez un peu beaucoup pour un parti qui n'a jamais réussi à accéder au pouvoir en France. Enfin, à un moment qu'ils essayent quand même, tu vois. Donc, tu vois, le niveau n'a aucun intérêt, tu vois, ce niveau d'argument. Laissons les gens s'exprimer, mais de façon un peu intelligente, quoi. Donc j'espère que ton deuxième message sera d'un niveau un peu plus intéressant. Lisons le message de Wasp. Je suis chercheur en droit privé et sciences criminelles à l'université en France. Je travaille sur les questions de surveillance, de fichage et de dérives autoritaires liées à tout ça. Je ne peux plus aller aux États-Unis, même en touriste. C'est la réalité. Mester me dit, je suis plutôt très à droite et j'approuve totalement ce que tu viens de dire, Sam. J'aime cette idée qu'on n'est pas d'accord ensemble et qu'on arrive à discuter. Merci, Mester. Marc Aurel, les gauchistes ont le droit, les droitards un peu moins. S'il avait parlé des droitards du chat, aurais-tu relevé son message? Bien sûr. En fait, ce qui me gêne, moi, ici, dans notre tentative d'échanger tous ensemble malgré nos différences, c'est le manque de subtilité, quoi. Quel qu'il soit. Salut, Tiscap. Samuel, tu as pris la résolution de ne plus trop réagir à ces messages merdiques. Non, j'ai pris la résolution de ne plus m'énerver. Et oui, je reste tout à fait apaisé. Moi, je pense que c'est intéressant. Je choisis certains messages pour vous faire comprendre ce qu'on essaye de faire collectivement ici. Kradouk dit alors que sur d'autres streams, si tu as une pensée ou une argumentation qui ne va pas dans leur sens, tu prends un permaban. Exactement. Moi, je ne veux pas d'un chat. Je ne veux pas d'une communauté qui pense comme moi. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas qu'on forme un petit club de gens hein, qui se prend, tient par la main, par les épaules en disant mais qu'est-ce qu'on est beau, qu'est-ce qu'on pense bien, qu'est-ce qu'on est heureux ensemble. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas créer une communauté de gens qui pensent comme moi. Ça ne m'intéresse pas. J'ai un miroir, je sais regarder dans un miroir. Si je veux voir quelqu'un qui me ressemble, je regarde le miroir, je serai très heureux. Qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es grand, qu'est-ce que tu es fort, tout ça est faux, mais peu importe. Non, discutons, échangeons, créons un cadre comme ça. C'est ce qui manque dans notre pays aujourd'hui, c'est ça notamment. C'est une espèce de polarisation extrême avec des gens de plus arc-boutés sur leurs opinions sans s'ouvrir à la discussion avec les autres. C'est catastrophique. Mais du coup, ça me vaut de la colère de camps très très différents d'ailleurs. Les gens sont noirs ou blancs aujourd'hui, ils ne connaissent plus les nuances ni le débat. Hatchoum ne nous emmène pas sur des questions de noir et blanc. Tu ne crois pas que c'est assez polarisé déjà ici? Et ça ramène hein, du noir et du blanc. Enfin, non, stop! Merci, Jéricho. Merci, émuleur de couche. Voilà. Moi, je suis content qu'il y ait des gens qui pensent pas comme moi ici, c'est très bien. De temps en temps, il y a un petit extrait de ces streams que nous consommons ici, qui partent sur les réseaux sociaux, hein, bien hors contexte. Un petit 15 secondes, un petit 20 secondes sur 3 heures de stream. Voilà. Et puis, effectivement, l'un des deux camps, l'un ou l'autre, le lundi, ce camp, le lendemain, l'autre camp, hein, va se palucher, va s'énerver pendant quelques jours sur ce message, sur ce petit extrait. Et puis, je vais me prendre des dizaines, sinon des centaines de réactions sur le réseau du chétan qu'on appelle X. Des petits DM, des petits mails, des petites insultes, des petites menaces. Bon, je suis habitué. Hein, ça ne m'empêchera pas de continuer à lire les journaux. On sait qui vous êtes d'ailleurs, hein, les gens qui font ça. Hein. J'ai un ami député là dont on a lu un papier tout à l'heure dans la presse. On sait que vous êtes. Ce sont les gens du Nord, hein, ceux qui suivent l'actu. Hein? Ça, c'est les gens du Nord, ça. Ah, on sait très bien d'où vous venez. Hein. X est vraiment la poubelle d'Internet, me dit Slywalker. Ouais, un jour il faudra. Ouais, moi je dirais les WC, moi. Mais un jour il faudra tirer la chasse hein, de ce truc. Hein. Quand même, un moment. Allez, sujet suivant. C'est la croix. Alors la croix, il faut que je revienne en arrière parce que mon iPad est cassé ce matin. Voilà. La croix qui nous fait un beau dossier ce matin. Merci Ryuko, tu es bienvenue. Sur 12 événements à venir en 2026. Bon, la croix n'a pas de boule de cristal. Hein? La croix ne sait pas ce qui va se passer d'important en 2026, mais la croix sait qu'il y a des événements attendus en 2026 qui peuvent attirer notre attention. Merci Skybreeder, merci Lexi pour le soutien et nous propose de nous pencher sur quelques-uns de ces événements. 12 événements attendus en 2026. À l'orée de la nouvelle année, la Croix a récupéré des événements remarquables qui vont jalonner cette nouvelle année. Dans le monde et en France, c'est exercice subjectif, bien sûr. Mais qui permet de pointer des sujets jugés importants par la rédaction et de croiser les regards dans une démarche plurielle. J'aime bien la Croix. C'est un bon journal. Qu'est-ce qu'on a? On a l'Ukraine, par exemple. L'Ukraine. L'Ukraine, on arrive aux 4 ans de guerre. 4 ans de guerre. Le 24 février 2026 marquera le quatrième anniversaire de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine. 4 années de combats acharnés qui n'ont pas encore réussi à faire plier la résistance du peuple ukrainien et de son armée, ni à épuiser la capacité d'agression de la Russie. Malgré une nette dégradation de l'économie russe en 2025 et la mort de centaines de milliers de ses soldats pour des gains territoriaux limités, le président russe Vladimir Poutine semble rester convaincu que le sort des armes lui est favorable et entend pousser son avantage en demeurant inflexible sur ses buts de guerre. Quant à l'Ukraine, voilà, elle peut compter sur le soutien de ses partenaires européens qui lui ont accordé en décembre un prêt vital pour continuer de refuser l'entreprise de subjugation du Kremlin. L'Allemagne, notamment, reste plus que jamais aux côtés de l'Ukraine. À défaut d'une rupture de tendance, l'année 2026 ne devrait pas bouleverser l'équilibre entre les belligérants. Dans de telles conditions, le président américain Trump est bien seul à croire encore qu'un plan de paix puisse concilier les positions si diamétralement opposées des belligérants. Reste qu'il est le seul à pouvoir faire pencher résolument la balance d'un côté ou de l'autre. En 2026, comme en 2025, la bataille pour l'oreille de Trump restera donc certainement le front essentiel de la guerre entre Kiev et Moscou. Voilà où on en est. Tout petit encadré, mais qui résume un petit peu où on en est de la guerre en Ukraine. On approche des 4 ans de guerre en Ukraine. Fameuse opération spéciale de libération de l'Ukraine des nazis. Hein. Pardon, les amis qui nous écoutaient en audio, je mets des gros guillemets à chaque fois avec mes doigts. Voilà, ce sont les propos de Poutine, bien sûr. Opération spéciale qui devait réussir en 24-48 heures. Ça fait juste 4 ans. Voilà. Et on aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. On n'oublie pas ce conflit. Il y a des élections cette année en 2026. Alors en Israël, ça je vous en parle régulièrement quand je vous parle de ce qui se passe au Proche-Orient, quand je vous parle de la Palestine, hein, il y a des élections en 2026, des élections générales, législatives, c'est un régime parlementaire. Est-ce que les Israéliens vont maintenir Netanyahou au pouvoir ou créer une nouvelle donne politique qui pourrait permettre d'avancer sur un retour d'un processus de paix au Proche-Orient. Ezred Xi dit Free Palestine, oui, bien sûr. On est tous d'accord là-dessus. Donc, on a des élections qui auront lieu en Israël en octobre 2026. C'est pas tout de suite. Avec un Premier ministre Netanyahou fragilisé par des tensions internes et une opposition qui réclame son départ et souhaiterait voir le scrutin avancer. À suivre. Octobre, c'est loin. Après, il peut y avoir des législatives anticipées aussi en Ukraine. C'est-à-dire, si à un moment Netanyahou pense qu'il a une fenêtre pour favorable à lui pour provoquer des législatives, il le fera bien sûr. Bon, été très américain parce qu'il y a la Coupe du Monde, on aura l'occasion d'en reparler. En Israël, oui, j'ai dû fourcher, ouais. Ouais, c'est ça, octobre plus tard, ouais. Bon, alors moi, ça fait quelques jours que je surveille les articles sur la Coupe du Monde de football aux États-Unis, au Mexique, au Canada. Il y a beaucoup d'articles qui soulignent plein de questions sur le prix surréaliste des billets, sur le fait que plein de supporters d'équipes seront interdits de venir soutenir leur équipe parce que Trump a décidé qu'il fallait fermer totalement les frontières à tous les ressortissants de certains pays. Donc ça, je surveille ce sujet et j'aurai l'occasion de vous en reparler. Mais j'ai pas encore trouvé le bon gros dossier, bien écrit, bien construit, etc. là-dessus. Élection municipale en France dans moins de 3 mois là. Hein? Les 15 et 22 mars. Fort enjeu local. Le maire demeure de loin l'élu préféré des Français. Ouais. Et aussi enjeux nationaux. Même si les étiquettes partisanes sont souvent cachées au municipal. Souvent au municipal, les gens votent pour une personne, vous savez, moins que pour une étiquette politique. Est-ce que c'est un bon maire? Est-ce que c'est un mauvais maire? Est-ce que cet opposant-là ne ferait pas un meilleur maire? Ça, c'est vraiment c'est intéressant ce qui se passe au niveau municipal. Il y a moins de votes militants, quoi. Mais il y a aussi, bien sûr, des enseignements nationaux à ces élections locales. Dans les grandes villes, notamment, les alliances de premier tour ou de second tour entre les partis politiques seront scrutées de près. Alliance, par exemple, à gauche, entre la France insoumise et le PS. Alliance éventuelle avec la droite républicaine, LR et le Rassemblement national. Derrière ce scrutin communal se dissimule une autre élection, le renouvellement en septembre de la moitié du Sénat. Salut au Spreys. Bonne révision. Les délégués des conseils municipaux représentent en effet 95% des grands électeurs sénatoriaux. Ah ouais. Ouais, ça je savais pas ça. Enfin, je savais pas que c'était. Ouais. La moitié du Sénat quand même. Enfin, le bilan national des municipales, puisqu'il y a aussi une analyse nationale de ce scrutin local, constituera une étape dans la préparation des échéances nationales de 2027, la présidentielle bien sûr. Avec la question de la succession d'Emmanuel Macron. Quelqu'un dans le chat m'a dit tout à l'heure, est-ce que tu. Est-ce que qu'est-ce que tu penses du fait que du rôle que pourrait jouer Emmanuel Macron après son deuxième mandat, est-ce qu'il va continuer à jouer un rôle? Je t'ai pas répondu pour deux raisons. La première, c'est parce qu'on était en train de parler d'autre chose. On était en train de parler d'un autre sujet. Et si je commence à répondre à vos questions sur un autre sujet, alors que je parle de, je sais pas, de l'Ukraine ou ça devient illisible pour les gens qui nous écoutent. Donc première, je t'ai pas répondu pour cette raison-là, puisque ta question est à contretemps, et je t'ai pas répondu aussi parce que je n'en ai aucune idée. Voilà. Donc tu as ta réponse qui est passionnante. Donc la présidentielle, mais aussi sans doute les législatives, puisque le nouveau président ou la nouvelle présidente élue en 2027 va sans doute dissoudre pour provoquer des élections législatives et espérer avoir une majorité que n'a pas le président Macron. Imaginez qu'on a un nouveau président, une nouvelle présidente en 2027, qu'il dissout l'Assemblée pour provoquer de nouvelles législatives. Et que comme le président précédent, le président Macron, il n'a pas de majorité, ou elle n'a pas de majorité, c'est reparti pour le bordel. Incroyable ça. Ben, ce sera la même. C'est-à-dire un président ou une présidente impuissante, élue sur un programme qu'il ne pourra pas appliquer. La régalade. La régalade. Ouais, on verra ce qui se passera. Ou alors, ça se reproduit et les acteurs politiques, les partis, les élus, notamment à l'Assemblée, subitement connaissent une telle mise à niveau de maturité politique, d'intelligence politique, de sens du bien commun, que les ennemis d'hier arrivent à se parler et des gens créent des coalitions. Et se mettre d'accord pour s'asseoir sur certaines de leurs oppositions et se mettre d'accord sur des programmes de gouvernement. Oh, incroyable, ce serait fou! Bon, jusque-là, c'est pas tellement ce que nous ont montré ces acteurs politiques, mais voilà. Voilà. Parce que ça, c'est l'autre solution. Ou on revient au système d'alternance binaire de la Ve République avant. Un président qui a une majorité, bim, bam, let's go. Vous m'avez élu pour ça, ok, on fait ça. Voilà. Et j'ai une majorité pour voter chaque réforme que je souhaite, en gros, sans passer sans arrêt par le 49-3 aux caisses. Voilà. Ou alors, effectivement, une évolution parlementaire du régime avec des acteurs qui apprennent à faire comme dans d'autres pays, notamment européens, à se parler, créer des coalitions. C'est pas forcément l'idéal d'ailleurs, mais les coalitions elles durent ce qu'elles durent d'ailleurs, parfois ça se finit très mal, mais c'est une autre façon de gouverner le pays, quoi. Alors, je me suis un petit peu arrêté là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Loi sur la fin de vie, l'année d'adoption, ça, on aura l'occasion d'en reparler, c'est un sujet très important. Et puis je voulais me faire un petit coup de projecteur sur un truc artistique, parce que j'en avais pas entendu parler. À Paris, JR, l'artiste. Pas J.R. Ewing hein, pour les plus anciens là. Dallas, tout ça, Bobby, Pamela, mais J.R. l'artiste, va transformer le Pont Neuf à l'âge de pierre. Ça donnerait ça. Ça donnerait ça. Le Pont Neuf. Transformé un peu en carrière, en grotte. Oui, pas mal. ce sera la plus grande œuvre immersive au monde. 120 mètres de long, promet JR. 40 ans après l'empaquetage du Pont Neuf par Christo et Jeanne-Claude, l'artiste de 52 ans va s'attaquer à son tour à ce monument parisien, le transformant du 6 au 28 juin. Ah, alors les questions du chat, enfin de certains. Mais pourquoi ? Mais c'est de l'art, il n'y a pas de pourquoi. L'art ne répond pas à la question du pourquoi. L'art, l'art est là pour te réjouir tes pupilles, ou te faire s'interroger, ou te faire se poser des questions. D'ailleurs, en posant la question pourquoi, déjà tu légitimes l'œuvre. Alastair, c'est avec notre argent ? J'étais un petit capa, donc je sais que tu fais ça exprès pour faire rire les gens. Alastair, c'est avec ton argent, Alastair. Rien que toi, c'est toi qui vas tout financer. L'art d'utiliser l'argent public, exactement, Ava 9. Mais pas l'argent public, ton argent, Ava. C'est-à-dire que l'essentiel de tes économies, Ava, vont passer dans ce projet. Ouais. Tu ne le savais pas, mais c'est dans l'article. Ava 9. C'est écrit là tout en bas, en petit. Voilà, en tout petit. L'essentiel du budget pour réaliser ce projet artistique à Paris sera prélevé sur l'épargne d'Ava 9. C'est écrit là. Eh oui. Eh oui. De l'importance de lire les journaux, tu vois. Donc, lisons cet article. Ce sera la plus grande œuvre immersive au monde. 40 ans après l'empaquetage du Pont Neuf par Christo et Jeanne-Claude. Voilà, donc, JR va s'attaquer au Pont Neuf en le transformant du 6 au 28 juin en caverne par des photographies géantes apposées en trompe-l'œil. Projet entièrement financé par des fonds privés. Quel bonheur! Quel bonheur! Hein? La colère d'une partie des viewers. Quoi? Quel scandale! Hein? Mon argent! L'argent public! Quelle débauche! Quelle chiolie! Bah non, en fait, c'est raté. Je ne savais pas, hein, j'ai pas fait exprès. Hein. C'est uniquement de l'argent privé. Bon, j'attends le message. Ouais, mais c'est de l'argent privé qui pourrait être utilisé mieux que ça, hein, quand même. Hein ? Ah, quel kiff. Bon, je continue. En 2019, JR avait déjà fait apparaître, avec ses collages photographiques éphémères, un gouffre autour de la pyramide du Louvre. En 2023, il avait même créé une gigantesque caverne sur la façade de l'Opéra Garnier, cette fois en donnant l'illusion. Je me rappelle de l'empaquetage de l'Arc de Triomphe, si je ne dis pas de bêtises, par Christo. Quand je dis Christo, c'est Christo et son épouse. Hein. En fait, ça, c'est le terme recouvre les deux artistes. Je me rappelle, il y avait les mêmes polémiques à l'époque. Ouais, mais pourquoi ? Mais avec quel argent ? Moi, j'étais allé voir. Oh, c'était beau, hein. C'était étonnant. Oui, Mante et Christo, ouais, excellent. C'était pas mal, hein. Ça, quand, je vous avoue, quand je vois ça comme ça, je sais pas, je pense à... Bon, ça me hype pas trop. Mais j'irai voir. Peut-être que je me trompe. Et puis c'est de l'art, je suis pas obligé d'aimer. Hein. C'est très subjectif. Donc, cette fois, en donnant l'illusion de formations rocheuses reliant les deux rives de la Seine... Sur le vieux pont de Paris, il permettra aux visiteurs de traverser son œuvre gratuitement de jour. On va pouvoir traverser. C'était la capote géante, c'est ça, dit Pandarou ? Non. Ça ressemblait pas du tout à une capote géante. Non, la capote géante, c'est dans tes rêves, Pandarou. Donc on pourra traverser ce truc, inspiré des carrières franciliennes. Ayant fourni les pierres de la capitale, son projet se veut une allusion aussi au mythe de la caverne de Platon. Ah oui, ça c'est très intéressant. Ouais. Dans lequel les hommes n'entrevoient que les ombres du monde extérieur. Ils ne voient pas la réalité, mais l'ombre de la réalité. Aujourd'hui, nos ombres, ce sont nos téléphones portables, nos bulles d'algorithmes qui nous enferment chacun dans une version différente du monde et nous polarisent. Revenir à la caverne, c'est revenir aux origines du monde, ainsi qu'aux premières traces humaines. Explique l'artiste dans un entretien à la mairie de Paris. C'est pas mal. On ira voir. Moi, Objectivement, moi je trouve ça moche, hein. Mais faut voir de visu, hein. Si ça se trouve, ce sera incroyable. Puis à l'intérieur, il se passera des choses. Comme dit Sugar, faut le voir en vrai. Voilà. Hein? Il se passe à quoi à l'intérieur? Ben, on sait pas, on sait pas. On sait pas. J'entends les enfants qui rigolent à côté, là, je sais pas, ils sont en train. Je sais pas ce qu'ils sont en train de regarder sur leur iPad, ils ont l'autorisation de l'iPad, ils ont téléchargé, je crois, des petits dessins animés là. Ça rigole, ça rigole. C'est pas leur père qui les fait rire, hein, parce que je pense que les pauvres. Ils préparent peut-être un mauvais coup. Non, ils sont trop mignons, ils sont trop choux. C'est trop, des enfants qui rient, des enfants qui rient, quel bonheur. Alors attends. Le chat. Ils ont quel âge? Ils ont 9 et 5 ans. 9 et 5 ans. J'ai rencontré mon épouse assez tard, donc j'ai eu des enfants assez tard, mais j'ai beaucoup de chance. Ils sont adorables. Voilà. L'objectif, c'est de faire une équipe de foot, hein. Moi, j'en voudrais 11. Mais là, j'en ai que 2 pour l'instant. J'ai un attaquant, j'ai un gardien de but. C'est un peu court pour la Ligue 1, quoi. Donc, je bosse sur le sujet, mais bon, il m'en manque 9. J'ai la charnière centrale, ouais. Tu oublies les remplaçants. Ah ouais, ben non, non. Non, je vais pas faire. Ah non. Tant pis, hein. S'il y a un carton rouge, on jouera à 10. Hein. Ah non, non, mais oh. Sinon, tu peux adopter, c'est comme le mercato. C'est bon ça. Voilà une équipe de pongistes. Ouais. Ou au moins une équipe e-sport, tu vois, au moins 5, tu vois. Allez, je vais essayer de convaincre Hélène avec cet argument. Je lui dis, Hélène, tu sais l'enjeu de l'e-sport. Tu sais l'enjeu de l'e-sport. Tu sais que l'e-sport, c'est le divertissement de demain, quoi. Il nous faut une five stack. Donc il m'en manque 3, quoi. Rocket League, c'est 3? Bon, au moins 3. Hein. Ouais, mais Rocket League, je sais pas, moi, je suis plutôt LOL Valo, quoi. Et ou alors des triplés, faut que je fasse des triplés. Ça ferait 5. Ah, Sugar me dit Dead Game Rocket League en ce moment. C'est vrai ça? Donc t'as dit trop mignonne. Ok, sujet suivant, bande de beaux gosses. 5, 6. C'est l'année spatiale. Ah oui? Année érotique. Il y a une chanson qui chantait ça. Année érotique. Et là, c'est l'année spatiale. C'est le Figaro qui nous dit ça, regardez. 2026. Année spatiale. Hop. Lisons. 2026, année cruciale pour la conquête spatiale. La Lune, Mars, Mercure, les prochains mois s'annoncent riches en exploration de notre système solaire. Qui avait dit déjà, quel homme politique avait dit qu'il y avait des millions d'étoiles dans notre système solaire? Qui avait parlé des millions d'étoiles dans notre système solaire déjà? Quel bonheur! Ouais, c'est Bayrou qui avait dit ça, le pauvre. C'était chaud quand même. C'était chaud. Ah, c'est François Bayrou qui avait parlé des millions d'étoiles de notre système solaire. Eh oui, quel crack. Eh oui. Ah, il a dit des centaines? Ah, même des centaines. Même deux, hein. Même deux étoiles dans le système solaire, ça suffisait pour la vanne, en fait. Il a peut-être dit des centaines, ouais. Ouais. Alors, lisons cet article. Il a pas tort. Il y a Grumpy qui dit il a pas tort. Je répète la phrase, Gampi. plusieurs étoiles dans notre système solaire. Grumpy. Solaire, soleil. Étoile. Lisons. La Lune, Mars, Mercure, année 2026, charnière pour l'exploration spatiale. C'est intéressant en vrai. L'année 2026 peut-elle marquer une forme de renouveau pour l'exploration spatiale? Parce que parfois ça balbutie, ça hésite, ça coupe les budgets, tout ça. Il est délicat d'apporter une réponse définitive étant donné les grandes incertitudes qui pèsent sur ces activités. Les missions se développent sur des années, les voyages sont parfois très longs, les calendriers qui en résultent ne témoignent pas toujours du dynamisme du secteur à l'instant T. Voilà. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'à la faveur des hasards programmatiques, cette année spatiale 2026 s'annonce bien plus riche en exploration humaine et robotique que les précédentes. Des astronautes vont voler au-delà de la Lune pour la première fois depuis plus de 50 ans. Merci Timothée, tu régales. On vous voit les fans de Rayou, hein, je vous kiffe. Sophie Adenau, la française, va s'envoler pour la Station spatiale internationale, devenant la 11e spationaute et la deuxième femme française à voyager dans l'espace. L'ambitieuse mission européenne Bepi Colombo va se placer en orbite autour de Mercure après 8 années de voyage. La mission franco-japonaise MMX va décoller pour tenter de ramener les premiers échantillons de la Lune martienne Phobos. Merci Northwich. Merci Skybreather. L'Europe va lancer son observatoire spatial Plateau. Plateau, sans doute destiné à prouver que la Terre est plate, je pense, hein. Destiné à trouver des analogues de la Terre dans notre galaxie. Ah non, c'est autre chose. Etc. Plateau. Moi, je m'étais dit plateau. Tu vois, platisme. Bon, non. Alors qu'on devrait enquêter là-dessus, hein. Moi, j'ai vu des choses sur les réseaux. On n'est pas sûr, hein, là. La Terre est ronde, tout ça. À part. Bon, certains sont convaincus, certains rappeurs même. Voilà. Mais. À vérifier cette histoire. D'autre part, après une année 2025 extrêmement compliquée, marquée par la crainte de coupes drastiques à la NASA, on se demande qui aurait décidé ces coupes drastiques à la NASA, et les incertitudes sur le financement de l'Agence spatiale européenne, l'année 2026 s'annonce bien plus favorable. Non seulement l'ESA a obtenu un budget record de plus de 22 milliards d'euros, ça c'est pour l'Europe, mais le Congrès américain pourrait également retoquer en grande partie les mesures d'austérité voulues par l'administration Trump dans le secteur spatial. Cela ne sauvera probablement pas le programme de retour d'échantillons martiens. Donc ça a priori c'est abandonné. Dommage. Mais de nombreux autres projets pourraient échapper aux annulations envisagées. Il n'est plus impossible que le projet de station orbitale lunaire, auquel l'Europe est étroitement associée, et qui devait constituer une étape naturelle après l'abandon de l'ISS prévu en 2030, voit le jour. Station orbitale lunaire. Il est raisonnable d'espérer que les missions robotiques envisagées. Salut Mister Yoshik. Vers Vénus, Titan et Encelade, lune de Saturne, voire Uranus, puissent également avancer. Pop, 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 pop. La plus grande inconnue porte sur l'équilibre qui sera donné entre exploration humaine et robotique. Les États-Unis et leurs alliés se contenteront-ils de quoi? D'un ou deux voyages symboliques sur la Lune ou vont-ils tenter d'y établir une colonie durable pour préparer l'exploration de Mars? Étant donné les sommes astronomiques qu'un village lunaire engloutirait, c'est tout le futur de l'exploration robotisée qui s'en trouverait affecté. Vaut-il mieux explorer le système solaire dans toute sa diversité avec des robots ou tenter de l'habiter en commençant par la Lune? C'est intéressant ça. Et oui, c'est cher tout ça. Chacun a son opinion sur la question. L'Europe, qui a longtemps misé sur les seules sondes automatiques, commence à sérieusement réfléchir au développement d'un programme habité. Inversement, les États-Unis, qui rêvaient encore récemment de reconquérir, enfin de conquérir, pardon, Mars rapidement, semblent reculer face à l'ampleur de la tâche qui les attend. Finalement, c'est peut-être la Chine, dont les. La Chine. Dont les progrès sont constants dans le secteur du vol habité qui détient peut-être la clé du futur. Le pays semble bien partir pour tenir son calendrier et poser un premier taïkonaute sur la Lune en 2030, ce qui met une pression énorme sur la NASA suspendue au développement du gigantesque Starship de SpaceX, choisi comme alunisseur principal du programme Artemis. Les États-Unis pourraient-ils laisser leurs rivaux chinois prendre une avance décisive dans cette nouvelle conquête lunaire? La Lune présente-t-elle un intérêt géostratégique justifiant l'investissement de dizaines de milliards de dollars? Les prochaines années s'annoncent cruciales pour y voir plus clair. C'est vachement intéressant. Là, il y a un zoom sur les astronautes de retour autour de la Lune, de la Française Sophie Adenau, bientôt dans l'espace, de Mercure en ligne de mire pour la sonde européenne Bepi Colombo. C'est fou. Ce serait lunaire que la Chine y arrive avant. Bah, ils sont. Ouais, mais. Sugar me dit retourner sur la Lune, ça permet surtout de préparer Mars par la suite comme une sorte de plateforme d'entraînement et de développement. À quand on stream dans l'espace? Ah, j'aimerais bien en vrai. Ouais, Nightwolf me dit il y a un enjeu important d'une base lunaire pour la conquête spatiale. Pourquoi il y a Cocotte en tenue d'astronaute? Vite fait, hein. Vite fait. Il y a Chijin qui demande, est-ce que tu crois, Samuel, qu'on est déjà allé sur la Lune? Alors, je vais manquer de temps là pour. Je vais manquer de temps et d'énergie là pour celle-là, mais je me la mets de côté. Hein, je me la mets de côté pour. Je me la mets de côté. Je me la mets sur l'oreille. Je me la mets sur l'oreille, celle-là. Il a pas tort, dit Grumpy. Oui, comme oh, le chat, ce sont des gens du Nord, arrêtez, hein. Stop, stop, stop. Stop. Hein. Oh. Allez voir les images du télescope Rubin, peut-être, me dit Archange. Image incroyable. Même si vous n'aimez pas l'espace, ça vaut le coup pour se rendre compte de l'immensité de l'univers. Marc Aurèle, premier degré, beaucoup de personnes pensent réellement que nous ne sommes jamais allés sur la Lune. Il y en a infiniment plus que des platistes, c'est effrayant. Alors, Pandarou, nous met au courant, nous donne les bonnes infos, puisque moi j'en ai marre, cette histoire de Lune. Hein. Pandarou, la Lune n'existe pas, comme ça on met tout le monde d'accord, c'est juste un grand poster rond traîné par un avion depuis tout ce temps. Merci! Pandarou de dire les termes. Enfin, quelqu'un qui ose dire les hein? Bon, salut Yed. Non, en tout cas, il va se passer des choses en matière spatiale en 2026 et c'est très intéressant. Tiens, c'est ce que dit Sansoé. Ce que je trouve très intéressant, c'est que j'ai l'impression que dans les années 90-2000, les gouvernements se désintéressaient de l'espace. Avec le retour d'une forme de guerre froide entre les États-Unis et la Chine, les gouvernements s'intéressent à nouveau à la conquête spatiale. J'adore étudier cela avec mes troisièmes quand on étudie la guerre froide. Pardon, j'étais sur un historique. Excusez-moi. Et l'Europe, encore une fois, absente. Pas tant que ça, dit l'article Utopie, hein. L'ESA a eu un budget là, qui est pas ridicule. Pas tant que ça. MSTR me dit, il n'y a qu'un seul truc qui me fait rêver dans le monde actuel, c'est justement l'univers et ses mystères. J'avoue en vrai. Hein, parce que je n'avais pas quoi répondre à Poupouton qui nous disait un peu en colère. J'ai vraiment l'impression que c'est du pognon jeté par la fenêtre. Bah, plutôt par le hublot de la fusée déjà. Et qu'on a mieux à faire, genre s'occuper de notre propre caillou. Ouais, mais est-ce qu'on doit s'interdire de percer? Les mystères de l'univers. Tu vois? Est-ce que Est-ce que le comment les le la frontière que nous devons nous donner, c'est de uniquement de percer les petits boutons noirs surdonnés, ou éventuellement d'aller plus loin que le bout de notre nez et percer les mystères de l'univers? On peut faire les deux. On peut faire les deux. Sans compter que ce qu'on va apprendre dans la conquête spatiale va peut-être nous servir aussi pour nous ici-bas, quoi. Imagine justement, imagine, hein, voilà, que l'une des choses qu'on apprenne par la conquête spatiale, par un matériau découvert, par, je sais pas, un truc qu'on comprendrait, de la formation, des planètes, de l'univers, de l'expansion infinie, au contraire la contraction de notre galaxie, tout ça. Imagine que de tout ça, on arrive à trouver un procédé révolutionnaire pour supprimer les points noirs sur le nez. Imagine, on irait loin, très loin, pour revenir à l'infiniment petit et pour changer notre quotidien. Game changer. Donc, exemple. Oui, je pense que j'ai choisi l'exemple le plus parlant, oui. Tout à fait. On a l'occasion d'en parler, même si je ne suis pas un spécialiste des questions spatiales. On va terminer, on va se terminer, et on va terminer cette première revue de presse de l'année 2026 par la peut-être future interdiction des réseaux sociaux en France pour les adolescents. On en a parlé, l'Australie l'a fait récemment, l'Australie qui est devenue le premier pays au monde à le faire. D'autres pays en parlent, le président Macron le souhaite, il l'a dit, et il y a un texte qui arrive, il y a un projet de loi qui arrive, voilà. Et s'il est voté, et s'il est appliqué, eh bien, les réseaux sociaux pourraient être interdits aux ados. Alors, ados, quel âge déjà, quels réseaux sociaux, et puis quelle réalité, puisqu'on sait que tout ça peut être contourné. Le débat est assez intéressant, article dans Les Échos. Un projet de loi devrait être discuté au Parlement début d'année, mais des questions d'ordre juridique demeurent. Il y a peut-être des gens de moins de 18 ans ici, enfin, on est en vacances. Scrollez tant que vous le pouvez. Partagez des vidéos de chats avant qu'il ne soit trop tard. Téléphonez dans la cour du lycée d'ici quelques mois. Les moins de 15 ans, ne pourront théoriquement plus accéder aux réseaux sociaux. C'est en tout cas la volonté du gouvernement qui va déposer un projet de loi sur l'interdiction de TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, etc. Alors, etc., est-ce que c'est quoi ? X, bah, s'il y en a un qu'il faut interdire, c'est direct, c'est X déjà. Tu vois. Est-ce qu'il y aura Kick ? Est-ce qu'il y aura Twitch ? À voir. On va suivre le texte avec beaucoup d'intérêt. Et ce sera discuté par le parlementaire au début de l'année. Ce projet de loi consulté par l'AFP est composé de deux articles. Il propose d'interdire la fourniture par une plateforme en ligne d'un service de réseau social en ligne à un mineur de moins de 15 ans. Dès le 1er septembre 2026. Ce premier article s'inscrit dans le cadre de la loi pour la confiance dans l'économie numérique et confie à l'ARCOM le soin de faire respecter cette interdiction. Dans un second article, le projet de loi du gouvernement entend élargir au lycée, ça c'est une deuxième chose, l'interdiction de l'usage du téléphone portable qui est déjà interdit au collège. Donc tu n'aurais plus le droit d'utiliser ton portable, ton téléphone portable, au lycée. Donc c'est deux choses différentes. Merci Sio, merci pour ton prêt. Ce projet de loi n'est pas une surprise. Emmanuel Macron avait fait de l'interdiction des réseaux sociaux aux enfants l'un des chevaux de bataille. Le président de la République a largement évoqué ce projet lors de ses échanges avec la presse régionale ces dernières semaines. Le fait que l'Australie parvienne en décembre à instaurer une majorité numérique à 16 ans a sans doute fait bouger les choses. Il faut s'en féliciter évidemment. On va voir dans un instant qui dit ça. C'est un combat fondamental du président pour la santé mentale de nos enfants pour lequel je me suis engagé sans relâche. C'est le résultat du travail que nous avons mené ces 12 derniers mois qui s'appuie sur la mobilisation des chercheurs, des associations, des familles, des adolescents eux-mêmes, des groupes politiques, indique Clara Chapaz, qui est l'ambassadrice pour le numérique et l'IA et ancienne ministre déléguée chargée de l'IA et du numérique. Toute la question est de savoir si le texte sera suffisamment solide d'un point de vue juridique pour entrer en vigueur. En 2023, déjà, une loi à l'initiative d'un député, Laurent Marcangeli, avait été votée, prévoyant l'obligation par les plateformes de vérifier l'âge des utilisateurs et de requérir le consentement des parents quand ils ont moins de 15 ans. La loi n'avait jamais été appliquée parce que Bruxelles, l'Union européenne, l'avait retoquée. Mais le cadre normatif européen, il a évolué depuis cette loi. Donc peut-être que Bruxelles le laisserait passer cette fois. Le gouvernement estime avoir davantage de garanties cette fois. Déjà, il a saisi le Conseil d'État avant Noël pour pouvoir modifier éventuellement la rédaction du texte avant de le présenter à l'Assemblée. Ensuite, c'est ce que je vous disais, les lignes directrices de la Commission européenne sur l'application du DSA dévoilées l'été dernier pourraient ouvrir une porte. Grâce à l'élargissement des lignes directrices du DSA, chaque pays est autorisé sans qu'il y ait incompatibilité à décider d'un âge minimum d'accès aux réseaux sociaux. Les juristes ont travaillé une rédaction compatible avec le droit européen, explique un bon connaisseur du dossier. Même certains avocats en doutent, les solutions techniques doivent être aussi être définies. Laisser aux enfants le soin de déclarer leur date de naissance en faisant défiler leur année de naissance dans un menu déroulant n'est assurément pas la méthode la plus efficace. Toujours est-il que la nécessité de faire quelque chose semble largement partagée. Les parlementaires se bousculent sur le sujet. Il y a quelques jours, le Sénat a voté une proposition de loi, déjà, visant à limiter l'accès à des jeunes aux réseaux sociaux. L'initiative d'une sénatrice qui s'appelle Catherine Morin-Desailly, qui est centriste. Les moins de 13 ans seront interdits sur les réseaux et un accord parental sera requis jusqu'à 16 ans. Parallèlement, une autre proposition de loi, projet de loi, c'est quand ça vient du gouvernement, proposition de loi, c'est quand ça vient d'un parlementaire, de deux élus Ensemble pour la République, a été déposée, prévoyant une interdiction de réseaux sociaux avant 15 ans et un couvre-feu la nuit. Donc, on a peut-être une loi qui va être votée, un projet de loi cette fois, au premier trimestre 2026. Le grand public semble favorable à des mesures de restriction. Selon la dernière étude réalisée par Cluster 17 pour la Tribune Dimanche, 9 Français sur 10 sont favorables à l'instauration d'une limite de temps pour les mineurs. Même si les jeunes vont sans doute gronder. Des sondages ont été réalisés en Australie après l'interdiction. Les politiques de tous bords sont contents, les scientifiques sont contents, les parents sont contents, les jeunes râlent un peu. Les jeunes, justement, selon une étude récente de l'ARCOM, plus des trois quarts de ces ados ont été exposés à des contenus jugés choquants, discours haineux, scènes de violence. 56% ont des défis dangereux, 35% ont du cyberharcèlement, 32% ont des adultes mal intentionnés. Je vous lis. Alors oui, bien sûr, je ne suis pas sans savoir qu'il existe des VPN pour permettre de contourner ces éventuelles interdictions. Mais c'est aussi le vote d'une telle loi, c'est aussi c'est un côté symbolique aussi. C'est une société qui dit à sa jeunesse. Écoutez, si vous voulez contourner le truc, c'est comme l'accès au porno, par exemple, hein, qui est limité pour les plus jeunes en France depuis quelques temps. Si vous voulez contourner, bon ben, faites-le en connaissance de cause. Nous, on vous dit, société, que ça n'est pas formidable. C'est aussi un argument donné aux familles qui vont pouvoir expliquer à leurs plus jeunes au sein du foyer, écoute, ne va pas sur ces outils, sur ces réseaux, parce que tu peux y être exposé à des contenus extrêmement problématiques. Je ne suis pas le seul à le dire, d'ailleurs, il y a une loi qui le dit aussi. C'est aussi un argument de ce type, quoi. Merci Drakeos pour ce raid, tu régales. N'hésitez pas à aller follow la chaîne de Drakeos qui était en stream ce matin, autre passionné d'actualité. Merci à toi. Je suis sûr que vous avez parlé de ce qui s'est passé à Crans-Montana. Faut responsabiliser les parents déjà. Ouais, bah très bien, bah cette loi le permettrait. Hein. Peut-être que ça pourrait faire réfléchir les adultes aussi qui apprendraient, voilà, dans votre revue de presse préférée, de Drakeos ou de Samuel Etienne le matin, qu'il y a une loi qui interdit les réseaux sociaux pour les ados. Peut-être que ça peut aussi permettre le début d'une sensibilisation. L'idée de cette loi est géniale, mais malheureusement est totalement inapplicable. C'est comme interdire les clopes aux mineurs. Oui, Marc Aurèle. Alors pour le coup, les jeunes Français fument de moins en moins. Voilà. Il y a peut-être d'autres raisons aussi, notamment le prix des cigarettes, mais là, on a une société qui s'est mise en ordre de bataille pour faire baisser le tabagisme de notre pays, et ça marche. Les Français et les Françaises fument de moins en moins. Donc on peut dénoncer la politique anti-tabac, mais elle porte ses fruits. Alors si on devait écouter les partisans de la liberté absolue de chacun, tu sais, il n'y aurait jamais eu de politique anti-tabac en France, par exemple. Sommes-nous plus heureux pour autant? On est moins malade déjà, Scipio. On est moins malade et on coûte moins cher à la société aussi. Puis on a moins de cancer. Merci Tonoui. Alors Tonoui écrit, et pourtant je ne suis pas dans ce cadre-là ce matin, c'est adorable. Bonjour Samuel, je découvre votre matinage, je ne saurais vous dire à quel point il est agréable d'entendre des bonnes nouvelles, cela change des actualités déprimantes habituelles. Moi ce qu'on me reproche, et vous avez raison de me le reprocher, c'est que justement, moi je rapporte beaucoup de mauvaises nouvelles dans la revue de presse le matin, mais grande nouveauté 2026, Drakeos mon ami, ça va t'intéresser, à partir de demain samedi, tous les samedis après-midi, je vais essayer de vous proposer une revue de presse des bonnes nouvelles. 5 ans que je vous rapporte tout ce qui ne va pas. Désormais, tous les samedis après-midi, je ne sais pas, 14h-17h par exemple, je vais essayer de vous décliner quelques bonnes nouvelles de la semaine. Voilà. Voilà. C'est à nouveau ça. Et ça vous fera une sixième revue de presse du coup, au lieu de 5 max par semaine. RAN-MAGF, après, même si les Français fument moins, le souci derrière, c'est que les bureaux de tabac fermeront à force. Donc, des gens que seront sans emploi, des patrons qui mettent la clé sous la porte, et bien le bonjour à vous tous. C'est marrant, ça me rappelle un sketch, ça. C'est toi qui l'as écrit, le sketch sur. Tu sais, en Belgique, là, le. Le. C'est toi qui l'as écrit? Dans le bar, là? Où le mec explique au patron du bar. Que s'il y a moins de chômeurs en Belgique, il y aura moins de. Hein, Rudy, voilà. Hein, il y aura moins de consommateurs dans les bars, dans les cafés. Hein, et du coup, s'il y a moins de chômeurs. Parce que Rudy, c'est le patron du bar, je crois, c'est ça? Sais-tu, Rudy, voilà. S'il y a moins de chômeurs en Belgique, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura. Expliquer ce sketch. Hein, il y aura moins de consommateurs dans les bars, voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir des licenciements dans les cafés. Il y a des cafés qui vont fermer. Et puis, as-tu pensé, Rudy, aux producteurs de bière, hein? Il y aura aussi des suppressions d'emplois dans ces entreprises, voilà. Et peut-être même aussi chez les pharmaciens, voilà. Et donc, s'il y a moins de chômeurs pour consommer dans les cafés belges, eh bien, au final, à la fin du fin, ça va provoquer du chômage. Donc le sketch est formidable et merci à toi parce que tu viens de nous le rappeler avec cet argument imbattable. Samuel, le problème, s'il y a moins de gens à fumer, ça va créer du chômage. Merci beaucoup. L'avez pas vu ce sketch, il est formidable. On se le refait pour le plaisir? Rudy. Chômeur. Allez, un petit plaisir. Ça passe très bien en podcast aussi. C'est un bonheur, c'est un bonheur. Moi, je trouve que commencer l'année 2026 avec ce sketch. Au début, moi j'ai pensé, la première fois que je l'ai vu, que c'était un vrai truc. Et en fait, non, c'est un. Sais-tu, Rudy? C'est ça, voilà. Attends, faut que je vous le trouve sur YouTube, je pense. Rudy. Et en fait, vous m'avez expliqué, mais non, Samuel, c'est un sketch. C'est un sketch. Mais c'est merveilleux, mais c'est merveilleux. Ah, je l'ai. C'est un bonheur. Je l'ai, je crois.
Vous savez, madame, je trouve qu'en Belgique, il y a beaucoup trop de chômeurs.
Alors, la qualité vidéo est pas top. Est-ce que je l'ai mieux, là?
Il y a beaucoup trop de chômeurs.
Moi, je l'ai, là. Quel bonheur. Quel bonheur. C'est ça. On va mettre un peu plus de son. C'est magique. C'est magique.
Il y a beaucoup trop de chômeurs.
Bah oui, malheureusement.
Ça va aller, oui, de tout de suite que je te dérange. C'est parce que t'es pensionné, c'est facile à dire. Toi, t'as eu du travail toute ta vie. Il y a trop de chômeurs. Tu crois que ça irait mieux s'il avait moins de chômeurs? S'il avait moins de chômeurs, tu peux fermer. Imagine que j'ai du travail et que tous ceux qui sont ici, tout d'un coup, ils ont du travail. Tu peux fermer, sais-tu, Rudy? Tu peux fermer. Et il n'y a pas que toi. Tous les cafés de Belgique et du monde entier de Belgique, ils peuvent fermer, hein? S'il n'avait plus de chômeurs, c'est grâce à nous autres que tu travailles. Ton personnel, imagine, il n'a plus de chômeurs, il ferme. Son personnel, terminé. Oh, ça arrangerait les choses, non, hein? Ton livreur, terminé. Hein? Ton fournisseur, terminé. S'il ferme. Tous les comptables de Belgique, terminé. Hein? Qui passent des heures à arranger tes comptes pour que, quand même, tu fasses un petit peu de noir. Fini. Hein? Ne souris pas, je sais bien que tu le fais. Mais c'est normal. Il faut que tu t'en sortes aussi, Rudy. C'est normal. Un petit peu, mais un petit peu pour tout le monde, c'est un petit peu. Et puis voilà. Et il n'a pas que les comptables, les gastro-entérologues. Terminé, tu crois qu'il y aurait des files d'attente ainsi dans les salles d'attente des gastro-entérologues s'il n'avait pas Rudy pour servir à boire aux gens s'il ferme? Terminé, fini les gastro-entérologues. Attends, les trappistes, les moines, Orval, Chimé, tous ces moines-là, terminé. Ah, s'il n'a plus de chômeurs, c'est toute une économie qui s'effondre. Hein?
Oui.
On l'oublie. Et il me brûle, hein, Interbave. C'est comme ça qu'on dit, à Louvain, là. T'as vu le grand machin? T'imagines les milliers de personnes qui travaillent là-dedans?
Terminé, hein? Rudy.
Le jour, il n'a plus de chômeurs, je vais te dire. Le taux de chômage explose. S'il n'a plus de chômeurs, le taux de chômage explose, hein? C'est normal. On ne se rend pas compte, hein, Rudy. Les chômeurs en Belgique, c'est la première force économique du pays.
Voilà. Bon, c'est un sketch.
Il y a beaucoup trop de chômeurs.
C'est un sketch. Moi, la première fois que je l'ai vu, je pensais que c'était un vrai documentaire. Mais merci à la personne tout à l'heure qui nous a sorti l'argument quand même. Mais si les gens ne fument plus en France, hein, imaginez les conséquences pour les bureaux de tabac. Imaginez le chômage. Merci beaucoup. Ah. Bon, ben, les amis, on reparlera de cette interdiction sur les réseaux sociaux. Hein, pour les ados. Hein, est-ce que le projet va être voté? Quel sera son contenu? Quels seront les plateformes visées? Quelles seront les plateformes visées? Si on interdit X et son contenu, aujourd'hui, vous scrollez X, c'est violence, c'est pornographie, c'est surréaliste. Alors qu'on interdise ce contenu, qu'on empêche les plus jeunes d'accéder à ce contenu, moi, ça me semble de salut public. Après, qu'on interdise Twitch, par exemple, quand même moins avec un contenu moins problématique, quand même, hein. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y aura exactement dans cette loi et comment elle s'appliquera? Comment essayer de la faire respecter malgré tous les contournements technologiques qui peuvent être mis en place? C'est pas inintéressant. Hein, on aura l'occasion d'en reparler. Merci, les amis, en tout cas. Ah, si je peux vous le mettre, le sommaire. Merci, le sommaire, parce que c'est terminé là. Twitch, c'est le pire, dit Marc Aurel. Marc Aurel, très enfant depuis ce matin. C'est un festival, Marc. Je te lis, c'est du plaisir. C'est du plaisir, Marc. Tu me régales. Tu me régales. Twitch, c'est pire que X, me dis-tu. Marc Aurèle, j'ai presque envie d'un florilège. Mais non, je te souhaite une bonne année. J'étais sur ton historique, mais je vais plutôt te préférer te souhaiter une douce et lumineuse année, quoi. Les amis, merci pour ce matin, voilà. Je vous souhaite une belle journée, une douce année 2026. Je vais retrouver mes deux petits loulous qui sont à côté, qui disent rien, qui sont en train de dessin animé là, Et on, je vais aller les nourrir. On va faire un petit déjeuner. Et je vous retrouve alors. Pas sûr de vous retrouver ce soir. Mon corps vibre d'une envie intense, comment dire, brûlante, dévorante de relancer God of War, le jeu que j'ai découvert hier soir, qui est inouï, qui est juste génial. Oui, j'ai vibré pour God of War. Ce jeu est fou, mais c'est les vacances et j'ai un peu promis à Hélène de ne pas trop streamer pendant les vacances, quoi. Voilà. Donc, on va voir. En tout cas, demain, pour la première fois depuis que je suis sur Twitch, il y aura une revue de presse le samedi après-midi, une revue de presse des bonnes nouvelles. Voilà. Alors, j'espère qu'on n'aura pas trop de gens qui disent « Ah ouais, mais Samuel, pourquoi tu parles des bonnes nouvelles? Et t'as pas vu le drame de machin, la crise du bidule, la guerre de trucs ?» Une fois par semaine, on va essayer de se mettre des bonnes nouvelles de côté le samedi après-midi. Donc, je vous fais un 13-16h ou un 14-17h demain. C'est sûr. Est-ce qu'il y aura du God of War? Et j'ai super envie parce que le jeu est juste magnifique, quoi. Magnifique. Voilà. Des bisous. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Vous êtes d'accord avec moi, je vous aime. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous aime ici. Vous êtes les bienvenus. Du moment que c'est correctement exprimé, qu'on arrive à en parler ensemble, c'est bien cool, quoi. Je voudrais remercier solennellement tous ceux qui nous écoutent en podcast, audio, en replay. C'est posté par l'ami Mathieu tous les jours à 15-16 heures sur toutes les plateformes de podcast audio, la revue de presse depuis la rentrée de septembre. Là. Donc sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, pour l'exclamation podcast, vous l'avez dans le chat. Et vous êtes un nombre, mais de fous, à écouter la revue de presse en podcast. Je n'en reviens pas. Et je suis super content de ça. Voilà. Et ça m'a... Si j'avais besoin de me remotiver pour faire la revue de presse vraiment tous les jours, ben... c'est super, c'est que je suis trop heureux de ça, ça me fait trop plaisir. Prenez soin de vous, des poutous, on se retrouve demain, ou peut-être même ce soir, peut-être que si tout le monde s'endort assez vite, j'arriverai, tel un ninja furtif, à me glisser dans le studio de stream pour faire du God of War, et on va raid qui est en live. Je regarde. Ouais, il n'y a pas trop de monde en live ce matin. Pas trop de live. Hein. Il n'y a pas trop de gens. Ouais. Ah ouais, c'est mignon. Il y a Ponce et Rivenzi qui sont en live en ce moment, ensemble. Bah, on arrête Ponce il n'y a pas longtemps. Faisons un raid vers Yves, ok? Allez, super. C'est un raid vers les deux, hein, pour le coup. Hop. Deux chouettes streamers. Allez. On est allé voir Ponce il n'y a pas longtemps. Allons voir l'ami Rivenzi. Bonne année, react avec Ponce sur notre vidéo 24h. C'est parti, c'est Ponce et Rivenzi. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Je vous souhaite la plus belle année 2026 avec plein de belles choses dedans. Et je vous dis au plus tard à demain après-midi, peut-être dès ce soir, pour du God of War. Des bisous. Merci Sir Blanco. Merci Drakeos. Ça part dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Des poutous.
La scène, elle est intankable.
Je repense à celui qui m'a déshabillé pareil. Ok, ok.
Ok, ok.
Ok, bah, c'est okay, venu pour pécho.
Bah, pourquoi pas. Pour pécho. Juste, bah, écoute, on était très ouverts, et c'est ok.
Oh, Samuel qui raide le...